RMC. Ils présentent la même émission, mais ils ne sont d'accord sur presque rien.
Midi 14h,
Brunet Neumann.
Salut les amis, c'est Laurent Neumann.
Salut les amis, c'est Éric Brunet.
Alors Adama Traoré et George Floyd, bah oui, certains aimeraient bien faire la comparaison, relier les deux affaires, tristes à bien des égards. Mais est-ce que ces affaires ont vraiment des points communs? En tout cas, le maire de Stein, et c'est la question qu'on vous pose.
Stein, c'est en Seine-Saint-Denis.
Oui, a-t-il eu raison, c'était hier, d'inaugurer une fresque murale assez grande, une fresque murale en leur hommage, dénonçant, je cite, le racisme et les violences policière.
RMC, l'avis d'Éric Brunet.
Eh bien, mon cher Laurent, pour moi, le clientélisme politique des élus locaux a vraiment des limites. Et là, ça lui a fait faire n'importe quoi à ce maire qui s'est senti pousser des ailes et qui a fait une analogie insupportable entre l'affaire George Floyd, l'affaire Adama, les violences policières. Pof, il a fait il a mis tout ça dans un checker, tu sais, là où on fait les cocktails, il a mélangé et il a sorti sa fresque. C'est de la propagande politique à deux balles.
RMC, l'avis de Laurent Neumann.
Bah, les amis, vous allez peut-être être étonnés, mais une fois n'est pas coutume, avec Eric, on est d'accord aujourd'hui. Mais j'y ajouterai quand même un élément, enfin deux même. D'abord, je te rappelle, Eric, que le maire d'une ville est le premier officier de police judiciaire.
Bah oui.
C'est quand même extrêmement bizarre d'oser se mettre à dos sa propre police. Premier point. Mais deuxième point surtout, le maire, il a intérêt à la paix dans sa ville. Or, je considère moi que cette manifestation autour de cette fresque, cette inauguration n'avait d'autre but que de remettre de l'huile sur le feu, alors qu'il faudrait, et c'est urgent, apaiser la situation.
RMC, Brunet Neumann.
Votez maintenant pour le qui tu choisis.
Bonjour Lisa Marie.
Bonjour Eric, bonjour Laurent, bonjour.
Salut
à tous.
Lisa. Bon, on n'est pas en opposition, hein,
non,
Laurent et moi,
vrai.
Aujourd'hui.
C'est ce que j'allais dire aujourd'hui, vous êtes d'accord? Et vous, qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord avec Éric et Laurent ou avec le maire de Stein qui a inauguré donc cette fresque représentant Adama Traoré et George Floyd?
C'est intéressant parce que ça veut dire qu'on peut voter oui, d'accord
avec Éric et Laurent
ou non, pas d'accord.
Ou d'accord avec le maire de Stein.
Pas d'accord avec nous et d'accord avec le maire de Stein. Compris.
Exactement.
Merci.
Et pour voter, rendez-vous sur rmc.fr et l'application RMC et sur nos réseaux sociaux, la page Facebook Brunet Neumann, les Twitter d'Éric et Laurent et sur la page Instagram RMC Off.
Alors, vous l'avez compris, une fois n'est pas coutume, Éric et moi, on est d'accord. On a tous les deux été extrêmement choqués par cette inauguration et par l'attitude du maire de Stein. Mais comme on est des grands démocrates avec Éric, on s'est dit, on va donner la parole, entre guillemets, à l'accusation. C'est-à-dire à l'accusé. On va donner la parole à Azzedine Taibi. Il est maire communiste de Stein. Écoutez-le, c'était sur BFM TV hier.
Il est normal que des citoyens, que des artistes, que des habitants puissent demander justice et vérité, et que des élus aussi le fassent. C'est mon cas à moi et je ne suis pas le seul. Je précise que cette fresque n'est en aucun cas une attaque sur l'ensemble des policiers, mais elle dénonce les violences policières qui existent, qui d'ailleurs ont même été, je dirais, approuvés au plus haut niveau du sommet de l'État.
Alors oui, violence policière, c'est le mot qui fâche.
Non, mais
il y a des violences.
Il faut qu'ils reviennent à l'école, pardon, mais les policiers ont le droit, Laurent, tu me coupes si je dis une bêtise, d'utiliser la violence légale, ça s'appelle la violence légale.
Légitime,
pour, quand ils sont en train de s'attaquer à des terroristes ou à des gens qui commettent des voies de fait, bien évidemment, les policiers ne disent pas bonjour monsieur, pourriez-vous présenter vos papiers? Ils rattrapent un voleur, un cambrioleur, quelqu'un qui est ivre-mort et qui roule à contresens sur la voie public, enfin bon, voilà, donc ça s'appelle la violence légitime. Voilà, c'est comme ça, c'est la République. Dans toutes les démocraties du monde, les polices ont le droit à la violence légitime, celle qui permet de rétablir l'ordre.
Et je rappelle encore une fois que le maire d'une ville est le premier officier de police judiciaire de sa commune, donc qui doit travailler main dans la main avec les policiers. Et prendre le fait et cause pour la famille Traoré contre les policiers, parce que sa présence à cette inauguration, c'est quand même comme ça que ça a été vécu, pas seulement d'ailleurs par les policiers, mais par une grande partie sans doute des populations concernées, je pense qu'il sort de son rôle et que ça contribue à mettre de l'huile sur le feu. On va aller recueillir votre avis au 32-16.
RMC, Brunet Neumann,
32-16.
Et on accueille Gwenaëlle qui nous appelle d'Orléans, le Loiret. Bonjour Gwenaëlle, bienvenue sur RMC.
Salut Gwenaëlle.
Bonjour, et puis merci de me laisser la parole.
Bah, c'est, on est là pour ça. Hein.
D'accord avec le maire de Stein ou d'accord avec Brunet Neumann aujourd'hui?
D'accord avec vous deux. Ça fait plaisir d'ailleurs de voir que vous êtes d'accord aujourd'hui.
Ça
parce
arrive.
Que vos collègues des grandes gueules, apparemment, ils sont pas d'accord avec vous. C'est un peu ce qui m'a incité à appeler quand j'entendais, alors, je crois que c'était Madame Soubré, Monsieur Lébig, qui eux prenaient la liberté d'expression et comme quoi on en faisait, le syndicat de police en faisait un peu trop sur cette fresque.
Ouais.
Moi, je suis un peu, déjà un peu énervé par cette indignation à géométrie variable à chaque fois. Pour donner un exemple, je pense que si le maire de Béziers, pour donner un opposé politique au maire de Stains, si le maire de Béziers avait fait une fresque au lendemain des attentats en disant contre le terrorisme et l'islam, j'ose imaginer l'indignation, la fresque, elle était effacée au bout de deux jours. Mmh. Ça, apparemment, il y a des choses sur lesquelles on peut s'indigner et d'autres non. Ça, c'est comme ça. Et après, ce qui choque le plus là-dedans, c'est la phrase qui est indiquée contre le racisme et les violences policières.
Mmh. Bien sûr.
Surtout que dans les deux cas, alors les violences policières, dans le cas de Monsieur Floyd, je connais pas toute l'actualité américaine, mais je crois que c'est pas encore jugé, c'est pas encore établi. Dans le cas de Monsieur Traoré, c'est encore moins le cas, puisqu'il y a une instruction qui est en cours. Et le racisme, ni pour Monsieur Floyd, mais encore moins pour Monsieur Traoré, je vois pas en quoi le racisme il vient là-dedans. Alors c'est sûr que on aime bien dire contre le racisme, parce que personne ne peut dire je suis pour le racisme. Mais pour Monsieur Traoré, il me semble qu'il y avait deux gendarmes sur trois qui étaient des personnes, entre guillemets, racisées. On ne sait plus quel mot employer.
Non, racisé n'est pas le mot, c'était juste des Antillais. Voilà.
Je comprends qu'il soit paumé, Gwenaël. Tu ne sais plus dire des Noirs, des Métis, des Blacks, mais en même temps, les Noirs eux-mêmes disent ne nous appelez pas Blacks.
Antillais.
Oui. Alors là, en l'occurrence, il s'agissait de personnes antillaises. Moi, je vais te dire une chose. Il faut utiliser les mots les plus simples. Un Français noir, un Français métis, un Français antillais, un Français.
Il y avait deux personnes métissées qui ont interpellé M. Traoré lors de l'événement dramatique. Donc,
je rappelle d'ailleurs que la grosse différence, on en parlait en préparant cette émission avec Laurent Neumann tout à l'heure, la grosse différence avec l'affaire George Floyd, c'est qu'il y a une interpellation des Traoré sur demande d'un juge. C'est pas un contrôle au faciès n'importe comment. Traoré, il y a un magistrat qui demande d'aller à la police, d'aller interpeller le frère d'Adama Traoré, et il s'y oppose et ça devient une affaire terrible, fort triste d'ailleurs, mais c'est pas un contrôle au faciès, c'est pas une interpellation comme ça, hein.
Ce que j'aimerais savoir aussi dans cette affaire-là, étant donné que le préfet demande au maire à ce que la phrase du haut de la fresque soit retirée, j'aimerais savoir est-ce que cette fresque elle a été faite sur un bâtiment public et est-ce que ça a été payé par les sous des contribuables de ça ou est-ce qu'après il y a un entretien que va gérer la commune donc avec l'argent des contribuables de ça.
Bonne question. Ce sont paraît-il, pour les informations qu'on en a à l'heure actuelle, ce sont paraît-il des artistes locaux qui ont agi de leur propre initiative. Vraisemblablement, quand on commence à faire une fresque murale aussi vaste, que ce soit sur un bâtiment public ou privé, vraisemblablement les édiles locaux ont laissé faire.
Oui,
et puis est-ce que c'est un bâtiment public, parce qu'après qui va payer l'entretien, etc. Donc effectivement, comme a dit Monsieur Neumann, c'est dans tous les cas, c'est pas le rôle du maire. Il a droit d'avoir un avis là-dessus. Hein.
Non seulement, parce que
il met lui son feu là.
Qu'un mec dise. Il faut respecter la création artistique, comme ça a été dit ce matin par Liebig aux grandes gueules, c'est une chose. Bon, je suis pas tout à fait d'accord, mais bon, bref. Mais alors qu'en plus, le maire l'inaugure, c'est plus du tout le même tabac. Là, le maire officiel, Parti communiste français, maire de cette ville de Stains en Seine-Saint-Denis, inaugure très officiellement, et donc ça veut dire qu'il s'associe à cette phrase qui est inscrite sur le mur, on dénonce, entre guillemets, le racisme et les violences policières. Ça veut donc dire qu'il y a du racisme dans la police et des violences policières. Et comme le disait Neumann, c'est quand même le premier flic de sa commune, c'est le maire.
Hein. Non, franchement, Gonel, Dieu sait si cette affaire, d'abord, c'est la mort d'un homme. Adama Traoré, il est mort. Donc ça n'est pas, c'est une histoire réellement triste. Même, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les responsabilités, n'empêche qu'à l'arrivée, il y a quelqu'un qui est mort. Mais quand même, si c'était pas aussi grave, ça prêterait à sourire, parce qu'il se trouve qu'hier, le préfet de Seine-Saint-Denis, monsieur Georges François Leclerc, c'est son nom, il a reçu une délégation du syndicat de police Alliance, en marge de la manifestation des policiers à Bobigny, pour mettre en demeure, et il a annoncé qu'il allait mettre en demeure le maire de Stein, donc Azzedine Taibi, de retirer de la fresque la mention violence policière, de retirer la mention policière. Ouais. Donc ça voudrait dire, à contrario, que le maire considère, que le préfet lui-même considère qu'une fresque mettant sur le même point Adama Traoré et George Floyd avec la mention contre le racisme et les violences, serait valide. Ouais. Donc que l'affaire Adama et l'affaire Floyd sont les mêmes. C'est quand même extrêmement bizarre.
Justement, Gwenaël, Laurent Neumann, écoutez Yvan Assioma, il est secrétaire pour l'Île-de-France de ce syndicat Alliance Police Nationale, qui est le syndicat le plus puissant hein, chez les policiers. Il s'exprimait hier sur BFM, écoutez-le.
Ce qu'on a dénoncé dans cette fresque, c'est simplement l'amalgame de cette phrase qui est très lourde sous-entendue, quand sur la même, dans la même phrase on met contre le racisme et la violence policière. Bien sûr que les sous-entendus, ils sont quoi ? Ils sous-entendent que l'ensemble de la police nationale est raciste et l'ensemble de la police nationale existe des violences policières. Ce qui a ulcéré nos collègues, c'est que c'est le maire de Stein qui en a donné une portée politique en venant inaugurer cette fresque, donc en cautionnant en fait cette phrase. Il aurait dû avoir l'intelligence lui-même de dire la représentation artistique, oui, mais la phrase polémique, non. Tout ce qu'on souhaite, nous, c'est qu'effectivement, la mention policière soit retirée, parce qu'il n'y a pas d'amalgame à faire entre racisme, violence et police.
Alors, tu penses bien, Laurent, que la sœur d'Adama Traoré, Assa Traoré, qui est au micro d'RMC, on l'écoute tout de suite, quand elle a entendu cette suggestion, retirer le mot, un mot, hein, policière, eh bien, elle a dit non.
Si cette fresque disparaît, si une lettre disparaît, c'est un appel à la haine, c'est un appel à la violence, c'est un appel au non-respect de nos morts dans le quartier populaire. Les seuls responsables, en tout cas, ça sera les syndicats de police Alliance.
Non mais de quoi elle parle de nos morts ? Il y a eu 19 morts sur la France entière pendant un an l'année dernière.
Ah non, 20 ans. 20 ans, tu parles de ceux qui sont morts lors d'une interpellation policière. Ouais. Non, c'est sur 20 ans.
Ah, c'est sur 20 ans, je crois que c'est sur l'année de 2019.
Non, bien sûr que non.
Ah bon, c'est sûr que non. Il y a eu donc 19 morts, j'ai mal lu le chiffre, merci de corriger Laurent. Il y a donc eu 19 morts sur 20 ans.
Voilà, dont un tiers, notamment parce que...
Ils s'enfuyaient,
ils sont morts dans leur fuite. Non, pas tués par les policiers eux-mêmes, mais pour fuir la police.
Mais est-ce que ça compte, par exemple, Mohamed Merah ou des gens qui sont...
Non,
mais c'est important parce que moi, j'ai lu un chiffre qui
parlait... Non, je parle d'interpellation policière.
Des personnes décédées... tué par la police.
Ah oui, non, là c'est beaucoup plus. Ah, on parle de 500 ou 600 personnes qui sont mortes sur les 15 ou 20 dernières années.
D'accord.
Donc là,
parles d'interpellations.
Absolument,
voilà.
Des interpellations qui, entre guillemets, dégénèrent.
D'accord.
Pour des raisons légitimes ou pas, ça c'est à la justice de le dire à chaque fois.
Donc très bien, merci de préciser et de me recadrer. Merci Laurent, ça veut dire qu'il y a eu, au cours des 20 dernières années en France, 19 personnes qui ont été tués au cours d'interpellations qui ont dégénéré.
Et évidemment, ça ne tient pas en cause.
Ça fait moins de une par an.
Ces chiffres ne tiennent pas compte, je le répète, de ceux qui ont pu être blessés, qui ont pu être, qui ont pu avoir des accidents. Je parle bien des décès.
D'accord. Voilà. Très bien.
On va remercier Gwenaël, peut-être, qui était avec nous à Orléans.
Merci Gwenaël, très, très énervé, très, très scandalisé par ce qu'a fait le maire de Stein.
Oui, parce qu'il y a Caroline qui nous attend à Boulogne-Billancourt.
RMC, Brunet Neumann,
32-16.
Salut Caroline, bienvenue sur RMC.
Salut Caroline.
Bonjour à tous. Voilà, moi j'ai une prise de position très, très différente de la vôtre.
Ah bah tant mieux. On a envie d'entendre tes arguments.
Alors mes arguments, il s'appelle par exemple aujourd'hui Cédric Chouvia. Il a répété 7 fois j'étouffe. Aujourd'hui il y a tous les enregistrements.
C'est bien la preuve.
Sur la table.
C'est bien la preuve. Il est blanc. C'est bien la preuve.
Mais
que
la violence policière, ça vous parle? D'accord. On ne parle pas ni de blanc ni de mort ni de noir, mais enfin je ne sais pas ni de chien. On parle de violence policière qui ont. Ouais. C'est quand même incroyable que vous confondiez tout. Pour moi,
dans la fresque, on dénonce le racisme des policiers aussi. Donc,
alors, c'est trop facile. Vous voyez ce que vous voulez voir. Vous voyez le doigt et pas la lune. Pour moi, il y a la.
Non, mais vas-y, Caroline. Moi, ça m'intéresse ton opinion. Va jusqu'au bout de ton idée.
Je lis la fresque.
Donc, tu, si je comprends bien, je résume, mais si je comprends bien, tu pars de l'affaire Adama Traoré d'une part et de Cédric Chouvia de l'autre, alors que d'ailleurs les deux affaires n'ont strictement rien à voir.
Elles n'ont rien à voir, mais c'est la même clé d'étranglement, et ça vous niez toujours cette même clé d'étranglement, cette même mort sur trois ou quatre flics qui vous écrasent au sol. Vous oubliez le point principal pour moi.
Alors, reprenons les choses dans l'ordre. D'abord, tu es d'accord avec moi, Caroline, pardon. Tu me permets de te tutoyer d'abord ?
Mais avec plaisir.
D'accord, donc reprenons les choses dans l'ordre. D'abord, tu es d'accord que dans les deux cas, il y a une enquête judiciaire. Donc toi, tu vas
déjà... Une enquête judiciaire qui va être bâclée comme d'habitude. On a l'habitude de tout qui est mis sous le tapis. Enfin, j'y crois à peine.
Caroline, quand il y a mort d'homme, les enquêtes ne sont pas bâclées.
Mais les flics sont toujours... en liberté, ils sont toujours en train de contrôler d'autres personnes avec leur savoir-faire. C'est quand même incroyable qu'ils ne soient même pas suspendus.
Alors là tu vois, très bien, Caroline.
Justement,
c'est Laurent Neumann là qui te parle. Là on est d'accord. Moi, à titre personnel, j'ai énormément de mal à comprendre pourquoi, depuis la commission des faits en janvier, ces quatre policiers n'ont pas été suspendus. Non pas contrairement à toi, parce que toi tu as l'air de dire qu'ils sont coupables, donc il faut qu'ils arrêtent de travailler.
Caroline,
les enregistrements, tu les connais depuis hier. Moi, je pense que la suspension des policiers eût été valide et intelligente dès la commission des faits. Mais pour deux raisons. Non pas parce que ce serait montrer du doigt les policiers en les déclarant coupables à l'avance, mais parce que je pense que dans une affaire où il y a eu mort d'homme et où des policiers vont forcément avoir à se défendre, ils ne peuvent pas et se défendre et continuer à exercer leur métier en même temps. Alors donc moi, c'est pas du tout pour dire ils sont coupables par avance. Et pardon, tu parles de cette séquence audio hier, je suppose que tu es comme moi, Caroline, jusqu'à hier, tu n'en savais rien. Tu pensais
je suis désolée, énormément d'informations sont sorties au moment où c'est arrivé. Le père, toute la famille, ils avaient eu accès, ils ont déjà parlé. Là, vous ne faites vraiment pas bien votre travail parce que moi, je le savais,
je connais le dossier par cœur et j'ai vu les résultats de l'autopsie. Oui, il y a eu fracture du larynx et oui, c'est à charge contre les policiers. Oui, il y a désormais cette vidéo et cette vidéo semble accréditer la thèse de
Les parents, ils l'avaient dès le début, la famille,
non,
la femme.
Non, pas du tout.
C'était dans son casque. Non. Je suis désolée.
Écoute, Caroline, écoute juste ce que je te dis. Caroline, laisse-moi aller jusqu'au bout. On n'est pas en désaccord, donc laisse-moi aller jusqu'au bout. Les informations concernant l'enregistrement audio qui a été révélé hier par Mediapart et par Le Monde et qui est dans le dossier d'instruction visiblement depuis une dizaine de jours et qui a sans doute suscité la garde à vue des policiers il y a 10 ou 12 jours de cela, d'accord, a demandé des semaines et des semaines d'expertise par le laboratoire d'expertise de la gendarmerie. Donc la famille n'a pas été au courant du contenu de cet enregistrement il y a 6 mois. C'est pas vrai.
Admettons, mais il me semble bien qu'à l'époque déjà j'avais vu sur Mediapart ou je ne sais plus où 2-3 quand même vidéos qui montraient qu'il n'avait pas eu quand même beaucoup de chance de s'en sortir.
Il est mort et c'est un drame. Caroline, il n'y a pas de débat là-dessus et je pense qu'Éric sera d'accord.
Alors, s'il n'y a pas de débat, je ne crois même pas pourquoi vous parlez de cet affiche.
Parce que
justement, la violence policière, elle est dénoncée. Cette affiche. Moi, j'y vois une partie de Cédric Chouvia dans cette affiche et j'aimerais bien qu'on le respecte.
Beaucoup
dans cette histoire.
Caroline, pas le racisme. Dans cette affiche, tu ne vois pas le rapport avec
la... Ça s'est passé en bas de chez moi, quoi.
Ouais, non, mais dans cette affiche, tu ne peux pas me dire que tu vois le rapport avec l'affaire Cédric Chouvia, au moins sur le racisme.
Alors, pas le racisme, je parle de la violence policière. C'est la deuxième partie de la phrase.
Donc, c'est bien ce que je dis, on mêle tout et son contraire.
Vous avez des lunettes noires, là.
Non, mais pas de lunettes noires. Moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est quand on exploite une histoire infiniment triste, voire même pas que triste, parce que peut-être que l'instruction démontrera que le policier qui a fait ça a été beaucoup trop loin et sera condamné. Dans ce cas, je serai le premier à applaudir la condamnation, parce que ce sera un scandale absolu. Mais moi, ce qui me gêne, c'est ceux qui en profitent pour distiller un discours anti-flic, quoi. Moi, je l'ai vécu pendant les gilets jaunes. J'ai trouvé ça absolument dégueulasse, comme si les pauvres flics qui sont payés à des salaires assez modestes se levaient le matin en disant on va buter des Français parce qu'on aime ça. Ça, je déteste ce discours-là. Moi, je connais deux ou trois flics. Ce sont des mecs tellement formidables que je déteste ce discours-là. Et de la même façon, je trouve assez scandaleux qu'on dise on va en profiter pour faire du lobbying pour la suppression de la clé d'étranglement, parce qu'un pauvre flic, une petite fliquette qui fait 1m60, quand on lui dit tu vois le mec qui court là-bas, qui t'a craché dans la gueule, qui se drogue, qui est violent, qui a essayé de casser la gueule, qui a foncé en moto sur un de tes collègues ou en voiture, tu vas l'arrêter, mais surtout pas de clé d'étranglement. Ça, je trouve que c'est un peu mépriser les policiers, Eric, que de leur supprimer tous les moyens dont ils disposent.
Tu acceptes juste d'un mot, Caroline, te répond.
Et bien sûr, voilà, j'ai terminé.
Caroline, on t'écoute.
Vous êtes hors sujet, vous parlez pas de Cédric Chouvia du tout. Vous ne répondez pas du tout sur le sujet. Vous me parlez d'autre chose.
Ben si. Je vous parle des gens qui profitent de ces affaires.
La police. Mais ce monsieur n'a pas provoqué la police.
Ah bah si, un peu.
Bah si, quand même.
Non, mais c'est pas le débat. Attends,
ah quand même, non, simplement non. Parce qu'il a dit, attendez, le mot non. Le plus fort qu'il ait dit.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il
a grosse insulte, Guignol, ça mérite la
Non, non, je sais pas, grosse insulte, et je suis d'accord avec toi, il a pas provoqué la police, mais il a suscité par son... Non mais laisse-moi terminer.
Il a suscité la colère.
Non, c'est pas ce que je dis. Il a suscité la nécessité pour les fonctionnaires de...
Vous direz, c'est la même chose. Non, mais laissez-moi finir.
Laissez-moi finir ma phrase. J'ai pas dit colère du tout. Pourquoi, Caroline, on dirait qu'il y avait de la haine, là. Il a suscité, chez les fonctionnaires de police, la nécessité de l'immobiliser pour le faire rentrer dans la voiture. C'est tout ce que je dis.
J'espère que vous irez voir un peu plus en profondeur le rapport.
J'ai vu, à partir du moment où quelqu'un refuse.
On est très loin de cette vision.
Non, mais Caroline, la règle de base, dans n'importe quelle démocratie, au Danemark,
tu prends... Vous savez combien de personnes y arrêtent?
La règle de base, mais je sais bien, mais la règle de base quand on est interpellé, c'est de répondre à l'interpellation et de répondre aux policiers. C'est la règle de base. À partir du moment,
c'est bien ce qu'il a fait. Vous réécouterez tout, vous lirez tous les rapports. Il a absolument pas voulu s'enfuir. C'est
faux. Soustraire.
Non mais Caroline, pardon. Si tu es une fidèle de Brunet Neumann, tu as dû entendre. C'est pas la première fois qu'on aborde cette histoire.
On a eu dans cette émission le
papa de Monsieur Chouvia qui nous a tous émus aux larmes, d'accord, qui a perdu son fils, pour qui c'est un drame. C'est un drame pour lui et pour l'ensemble de sa famille. Et de toute façon, dans une interpellation, quelles qu'en soient les conditions, un citoyen qui perd la vie, ça n'est pas acceptable, ça n'est pas admissible. Les responsabilités, c'est la justice.
Il milite contre la fin de la clé d'étranglement, le papa
absolument.
De Cédric Chouvia.
Ce que moi je conteste, c'est qu'on mêle tout et son contraire. Qu'à partir d'une affaire, on en conclut que les policiers sont tous violents. Qu'à partir d'une affaire, qui en plus à mon avis ne tient pas la route, on en conclut que les policiers sont racistes. C'est ça qui ne tient pas la route. Et c'est pour ça que ce matin, Eric et moi, on est d'accord. Mais pardon, on a entendu le père de Cédric Chouvia dans cette émission. Je défends son idée qui consiste à dire comment se fait-il que ces policiers ne soient pas suspendus, et je comprends qu'il pose cette question, mais pardon, nous on est journalistes, on n'est pas juges, c'est pas nous qui rendons la justice avant qu'une affaire soit jugée. Voilà, on a le droit d'avoir son avis, Caroline a le sien, son avis est parfaitement légitime, on a le nôtre, c'est pas le même, mais pardon, c'est pas nous qui décidons qui est coupable et qui ne l'est pas. Voilà.
Allez, on part dans quelques instants. Nous serons avec Ludovic qui nous appelle de Sarreguemines en Moselle.
Et on embrasse Caroline quand même.
Bien sûr qu'on embrasse Caroline.
Même si on n'est pas d'accord.
Émission de débat. Bah heureusement qu'autrement, il n'y a pas de débat. On est mort, on n'existe plus. À tout de suite.
RMC, midi 14h, Brunet Neumann. RMC, midi 14h,
Brunet Neumann.
Éric Brunet.
Laurent Neumann.
Adama Traoré, George Floyd, vous savez que le maire de Stains, en Seine-Saint-Denis, a inauguré une fresque hier en hommage à Traoré, à Floyd, dans laquelle il dénonce, je cite, le racisme et les violences policières.
C'est la fresque qui dénonce.
Oui, oui. Ouais, la fresque.
Et lui aussi, d'ailleurs.
Et donc, lui-même, d'accord. Je trouve que c'est du clientélisme. Toi, Laurent, tu dis que ce buzz va mettre de l'huile sur le feu. Tu as raison.
Bah, certains ont intérêt à ce que cette affaire ne se calme pas, mais qu'elle prenne encore plus d'ampleur.
Moi, ça me fait quand même penser à du clientélisme. On a vu déjà avec des élus, pas forcément de gauche, là, il s'agit d'un maire communiste, mais tu te souviens ce livre qui est paru sur Jean-Christophe Lagarde et qui montre que parfois, pour gagner des élections, pour faire plaisir à des électeurs, pour les remercier, on fait parfois des trucs
S'acheter la paix dans sa ville.
Voilà, pour s'acheter la paix dans sa ville.
Avec des gens peu fréquentables.
Je rappelle quand même que le maire de Saint est censé être le premier flic de la ville de Saint, hein, c'est ça. Bon, donc je comprends pas trop comment on peut dénoncer le racisme et les violences policières. Alors, comment est-ce que ça vote? On a eu le témoignage de Caroline qui était en désaccord total avec Laurent Neumann et moi-même qui sommes d'accord aujourd'hui. Hein. Comment est-ce que ça vote, Lisa Marie?
RMC, Brunet Neumann.
Votez maintenant pour le qui tu choisis.
Eh bien, pour le moment, vous êtes 80% d'accord avec vous, Éric et Laurent, et 20% à trouver que cette fresque...
D'accord avec Caroline, en fait.
Oui, c'est avec ça. Caroline,
elle a rallié 20% de ceux qui nous écoutent.
Ça a fait beaucoup réagir, le témoignage de Caroline. Et je voulais vous lire le message de Mehdi, qui lui répond « Bonjour, il faut arrêter de généraliser. La police n'est ni violente ni raciste. On regarde la face visible de l'iceberg, mais jamais la face cachée. Tous ces raccourcis sont malheureux. »
Ouais, il faut rappeler quand même qu'il y a
Je suis tout à fait d'accord avec ce message de Mehdi.
Et il faut rappeler quand même qu'il y a des milliers de contrôles policiers, des centaines et des centaines d'interpellations régulières chaque année.
Ouais.
Et heureusement, ça se termine pas comme ça à chaque fois. Heureusement, mais je tiens à dire quand même que la mort d'un homme, quelles qu'en soient les conditions, c'est un drame à chaque fois.
Ça, on est tous d'accord. Voilà. Mais même, prenons le pourcent d'interpellations qui se passent mal. Je dis pas où il y a un mort, hein. Où ça se passe mal, où il y a un refus d'obtempérer, où il y a un délit de fuite, où on est face à des gens ultra-violents, voilà, qui sont sous l'emprise de la drogue, par exemple. Eh bien, dans ce moment-là, être policier, c'est très, très difficile. Chacun dans sa vie a assisté un jour, probablement, à une interpellation qui se passe mal dans son quartier, dans la rue, etc. Donc là, c'est très difficile. Et si on dépossède les policiers de leurs moyens, c'est-à-dire soit une clé d'étranglement, soit je ne sais pas quoi d'ailleurs, hein, pour venir au bout d'un forcené qui les violente, qui leur crache dessus, qui les insulte, qui les pousse, qui sort une arme, si les policiers on les dépouille de leurs moyens, ça va être difficile d'exercer ce métier, voilà ce que je voulais dire.
Ouais, je rappelle quand même que Cédric Chouviat, il avait juste été arrêté parce qu'il téléphonait au volant de son scooter.
Oui, mais
non, mais ça a commencé comme ça. C'est quand même incroyable d'en arriver là. C'est terrible.
Mais tu as raison.
Allez, on va au 32-16.
RMC, Brunet Neumann.
32-16.
Et on est avec Ludovic qui nous appelle de Moselle, Sarreguemines. Bonjour Ludovic.
Salut Ludovic.
On t'entend très mal.
Vas-y, parle un peu là.
Non, ça y est. On passe à Frédéric qui nous appelle de Seine-Maritime. On le reprendra dans un instant. Oui. Salut Frédéric.
Oui, bonjour. Oui, voilà. En fait, je vous appelle parce que je ne suis pas du tout d'accord avec vous et je soutiens totalement le maire Azdine Tabi.
Je vais vous
expliquer pourquoi.
On écoute.
Alors, le 31 août 2001, c'était le jour de mon anniversaire, mes parents étant séparés, j'ai invité mon père à venir manger avec moi.
D'accord.
Donc, mon père, sachant qu'il avait une infection du poumon, il était déjà en invalidité, il ne travaillait pas, c'était déjà quelqu'un de très malade. Donc, je lui demande, est-ce qu'il veut une coupe de champagne? Il me dit, écoute, mets-moi juste un petit fond, juste pour trinquer avec toi. Je lui dis, ok, bon voilà, il n'a même pas fini sa coupe. Vers 22h et quelques, il parle, lui, il habite au Prince-Saint-Gervais, et puis il accompagnait aussi ma sœur, son mari et son petit bébé de 3 mois à l'époque. Eux, ils habitaient à Villejuif.
D'accord.
Donc, ils sont partis vers 22h. Allez, on va dire 3 quarts d'heure après, j'entends le téléphone sonner. Moi, je suis dans ma chambre. De ma chambre, j'entends ma sœur crier au téléphone. Je vois ma mère, je lui dis, maman, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, écoute, va vite à la mairie de Stein. Apparemment, ton père, il a eu un problème avec la police.
D'accord. Donc on est à Stein, là. Tu parles de Stein, là, la même ville dont il est question aujourd'hui avec cette fresque.
Voilà, c'est ça. Ouais. Parce que j'y ai habité, j'ai grandi là-bas.
OK.
Donc, j'arrive là-bas, je vois la voiture de mon père, les 4 portières ouvertes, ma sœur au milieu de la chaussée avec son bébé 3 mois dans les bras. Je dis, tata, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, écoute, on a vu la police, les sirènes, pour faire un contrôle, ils se sont arrêtés. Les policiers ont demandé à mon père, vous savez pourquoi on vous arrête? Mon père, il a dit non, il a dit, écoutez, vous avez grillé un feu rouge. Mon père, il a dit, écoutez, je suis passé à Laurent, j'ai pas grillé de feu rouge. Bon, bah écoutez, coupez le moteur et présentez les papiers, tous les documents qu'il faut. Mmh. Et les policiers demandent à mon père, bah, vous sortez d'où ? Mon père, il dit, écoutez, c'est l'anniversaire de mon fils. Donc il lui dit, vous allez consommer de l'alcool ? Et il dit, non, je bois pas d'alcool, je suis quelqu'un de malade. Et puis là, il lui dit, bah, sortez de la voiture, vous allez souffler dans le ballon. Écoute, mon père, il dit, écoutez, c'est un contre-routier, moi, je sors pas de la voiture, si vous voulez, je souffle dans la voiture. Et les policiers voulaient absolument le faire sortir de la voiture. Mon père voulait pas sortir de la voiture. À partir de là, ils ont ouvert la portière, ils ont commencé à tirer mon père par le col pour faire sortir de la voiture. Ils étaient trois. Là, mon beau-frère, il est sorti de la voiture pour défendre mon père. Bon, ça s'est un peu échauffouré. Ils ont mis les menottes à mon père et à mon beau-frère et les ont emmenés au commissariat. Moi, quand je suis arrivé, j'ai vu juste ma sœur. Je voulais rencontrer les policiers parce que je savais que mon père, il était malade. Ils ont pas voulu me faire rentrer dans le commissariat. Le lendemain, comme mon père, il est sorti de garde à vue le dimanche, parce que là, le samedi, il est sorti le dimanche. Mmh. Quand il est rentré, j'ai vu mon père avec des bleus partout sur le corps, un cocard. Il avait des fractures à la tête. D'accord? Il s'est fait massacrer en salle de fouille. Mon frère m'a dit, il entendait des bruits, mon père, il criait. Ils l'ont massacré en salle de fouille. Mmh. Et pour couronner le tout, ces policiers, ils ont osé porter plainte pour coups et blessures contre mon père. Un homme de 50 ans, il faisait à peine 1m65 et à peine 60 kilos. Genre, il aurait tapé trois policiers.
Mais Frédéric, j'entends, d'accord, c'est Éric Brunet, j'entends ton histoire. Bon, mais quand même, tu es passé vite, tu me dis... Ils sont arrêtés, ton père refuse de sortir de la voiture, je comprends pas comment on refuse, c'est le début des problèmes. Quand un policier te dit de faire un truc, tu le fais. Bon, il refuse et tu dis, non, attends, laisse-moi finir, Frédéric. Et tu me dis après, bon, mon père se chauffe, ils ouvrent la porte, etc. Mon beau-frère sort de la voiture, va défendre mon père et donc attaque les flics. Mais enfin, je veux dire,
je lui ai dit qu'il a tapé les flics, je lui ai dit qu'il est parti défendre mon père.
D'accord.
Monsieur Brunet, Mais si on vous tape dans la rue et vous êtes avec vos enfants, ils vont vous laisser vous taper comme ça?
Non,
ils vont vous
défendre.
Que ce soit les policiers ou n'importe qui. Moi, la première fois que je me suis fait contrôler par les policiers avec mes amis, on m'a insulté de macaque et de bougnoule. Donc la fresque, elle est totalement dans la réalité. Racisme et violence policière. Alors je dis un grand, grand merci à monsieur Azdine Taibi qui a osé faire ça. Je lui dis un grand, grand merci parce que c'était depuis 2001. À 52 ans, mon père est copé de 6 mois de sursis et 1000 euros d'amende. Or qu'il était là depuis 1970, il a toujours travaillé. D'accord, c'était pas un délinquant, c'était pas un violeur, c'était pas un pédophile, c'était pas un dealer, c'était pas tout ça. Donc vous connaissez pas ça, vous connaissez pas les polices, vous faites votre travail, mais moi j'ai l'impression que vous vivez dans un monde parallèle. Vous savez pas ce qu'on endure avec la police, d'accord? Tout à l'heure, je vous entendais parler de clientélisme pour que ça se passe bien. Mais vous savez que les policiers à instinct aussi, il y en a qui font des trafics avec les dealers, d'accord? D'accord. Pour quand les mecs ils dealent, hein, pour les laisser dealer en paix, et ben ils viennent pour avoir un peu d'argent pour les laisser dealer tranquillement. Donc moi je mets pas tous les policiers dans le même bateau, mais il y a un grand nombre de policiers, ce sont des pourris jusqu'à l'os.
Ouais, excuse-moi, Frédéric.
Message brut, hein.
Non mais Frédéric,
témoignage brut.
Frédéric, sur le cœur.
Frédéric, tu as vu
ça. Et moi je viens avec ça. Ouais, Frédéric. Moi j'ai vu mon père se faire massacrer. Vous savez pas ce que c'est de voir
son père
rentrer. Pratiquement, il pleurait mon père tellement qu'il avait.
Frédéric, c'est Laurent Neumann. Tu as remarqué? Je t'ai laissé aller au bout, tu as pu raconter ton histoire au bout. Maintenant, je vais te dire plusieurs choses. D'abord, l'histoire que tu racontes, visiblement, elle te tient à cœur, puisqu'elle a près de 20 ans. C'est une histoire qui a eu lieu en 2001. Les policiers de Stein en 2001 et ceux de 2020, ce ne sont sans doute pas les mêmes, et le maire non plus, premièrement. Deuxièmement, on peut, à chaque fois qu'il y a un cas particulier, aussi douloureux soit-il, en tirer des conclusions générales. Pour ça, les responsables politiques, d'ailleurs, ont un grand talent pour prendre une affaire et en tirer des conclusions. On prend l'affaire Adama Traoré et on va expliquer à tout le monde que c'est la même chose que George Floyd. On prend l'affaire Cédric Chouvia, un drame, un vrai drame, et encore une fois, on a reçu son père ici, pour en faire un cas général et en expliquant que tous les policiers sont violents. Et toi, Frédéric, tu prends le cas de ton père et tu nous l'as raconté avec de l'émotion. Et j'entends dans ta voix que tu ne t'en es pas remis et que tu as été, tu ressens ça comme une véritable injustice. Et je l'entends, mais pour autant, pardon, le cas de ton père, on ne peut pas en faire un cas général pour expliquer que tous les policiers sont des pourris, que tous les policiers sont des violents. Ça n'est pas vrai.
Surtout, Frédéric, et encore une fois, c'est Éric Brunet, le prends pas mal ce que je vais te dire, mais très souvent, nous journalistes, on voit sur une affaire comme celle de ton papa ou une autre, tu vois quelqu'un qui est comme toi meurtri, qui la raconte, voilà. Mais je pense que tu irais peut-être poser la question à un policier qui ce soir-là était là face à ton père, peut-être que le type aurait une toute autre lecture de la chose que celle que tu nous as fait, et peut-être même, je sais pas, aurait-il été blessé, scandalisé, meurtri par au commissariat ou pendant l'interpellation, des coups qu'il aurait reçus ou par le comportement de ton père ou de quelqu'un d'autre. Il y a deux façons de raconter les histoires, mais la tienne, c'est la tienne, bien sûr. Moi, je t'es pas un menteur, mais peut-être que la partie d'en face la raconterait avec sincérité, mais différemment.
Mais Eric, ce que tu dis est frappé au coin du bon sens. J'ai discuté avec des policiers à plusieurs reprises et ils te disent que dans un nombre de cas importants, dès qu'ils procèdent à un contrôle routier, il y a de l'animosité parce que les gens ont tout le temps l'impression d'être victimes d'une injustice. Pourquoi on m'arrête
moi et pas les autres ? Moi le premier.
Toi le premier, mais moi aussi. Tu grilles un feu rouge, tu dis non, je suis passé à l'orange. Je te signale, Frédéric, au passage que passer à l'orange, c'est totalement interdit par le code de la route.
C'est ce que je leur dis. Vous avez raison de vous en prendre à moi. Vous avez raison, il y a des terroristes partout. Tu vois, je m'énerve. Voilà. Il y a des terroristes partout, des gangsters partout. Mais un brave mec qui rentre chez lui, qui est peut-être passé à l'orange mur, faut surtout lui défoncer la gueule. Vous avez raison. Voilà.
Très bien. Et les policiers, quand ils te racontent ça, ils font leur job d'arrêter quelqu'un qui a grillé un feu rouge. Et ils doivent faire avec des gens qui considèrent que c'est injuste. Et parfois, heureusement pas tout le temps, mais parfois, il y a des interpellations, des contrôles qui dégénèrent. Et les policiers, ils doivent agir avec ça. Et c'est compliqué de faire face à des scènes, à des situations qui peuvent dégénérer en une forme de violence. Ouais. Mais moi, j'entends que Frédéric vit ça comme une injustice.
Moi aussi.
Il vit ça comme une injustice terrible.
Parce que Frédéric, donc 2001, ça fait donc presque 20 ans, et je pense que ça fait 20 ans qu'il vit avec cette affaire sur le cœur, et tu sens, quand il témoigne, que c'est lui, il l'a dans les tripes.
Frédéric, mille merci de nous avoir appelé, franchement, et ce récit, il faut l'entendre. Ouais. Il faut l'entendre.
Je suis d'accord.
Dans un instant, on avait parlé de Ludovic, hein, la conversation n'était pas audible, mais on va le reprendre dans un instant, il nous appelle de Sarreguemines. Puis vous les amis, vous continuez à nous appeler au 3216, on est là pour vous, Brunet Neumann. On revient sur RMC, à tout de suite.
RMC, midi 14h.
Brunet Neumann. RMC,
midi 14h.
Brunet Neumann.
Adama Traoré, George Floyd. Oui, on a été. Alors, c'est pas fréquent, mais Eric et moi, on a été choqués de la même manière hier. Est-ce que le maire de Stein a eu raison d'inaugurer une fresque en l'hommage de Traoré et de Floyd, hein, dénonçant, je cite, le racisme et les violences policières?
Moi, je trouve ça scandaleux, hein, je te le dis. C'est du clientélisme à 3 sous.
Allez, on avait promis d'aller voir Ludovic, on fonce.
RMC, Brunet Neumann,
32-16.
Ludovic qui nous appelait de Moselle. Est-ce que la ligne est meilleure, mon petit Ludovic? Salut.
Salut.
Bonjour, enfin rebonjour, est-ce que vous m'entendez bien?
Ah bah
beaucoup
voilà,
mieux.
Là on a l'impression que t'es dans le studio avec nous, tu vois, c'est
beaucoup
parfait.
Mieux, t'as fait venir un ingénieur SFR.
De m'accorder du temps.
Alors tu en penses quoi?
Bah déjà je vais juste répondre à l'intervention du monsieur qui était là avant vous.
Eric,
Moi j'ai un principe, c'est que à partir du moment où on respecte les directives des forces de l'ordre, il n'arrive pas ce genre de choses.
Ouais.
Qu'ils aient raison ou qu'ils aient tort.
Ben,
ça n'arrive pas.
Je suis désolé, Laurent, mais Ludovic a raison.
Ouais, mais il faut te l'appliquer à toi. Hein.
Oui,
et à moi, d'ailleurs. Moi aussi,
donc,
je rends le quand je
veux. Déjà à m'être fait arrêter et à ne pas être d'accord avec les forces de l'ordre, j'ai dû avaler ma fierté. Je sais que j'en ai. Et je peux vous dire que c'était compliqué, mais je l'ai fait parce que sinon, je savais que j'allais envenimer les choses et que ça allait forcément se retourner contre moi.
Remarque de bon sens.
Voilà. Mais je veux dire, je me suis fait arrêter pour une connerie à deux sous et pourtant, j'ai dû accepter. Et voilà.
Ouais.
Enfin bref, pour passer. Donc je sais qu'en tout cas, si on respecte les directives des forces de l'ordre quand ils nous arrêtent, parce que des fois même eux ils connaissent pas trop les procédures, hein, donc des fois ils sont un peu excessifs. Mais si on respecte ce qu'ils nous demandent, eh ben il nous arrive rien et c'est tout. C'est déjà la première des choses. Voilà. Deuxièmement, pour cette fresque, parce que c'est ça la base quand même du coup de fil. moi, quand j'ai entendu cette histoire de fraise, je me dis, bon, ça y est, voilà.
Ludovic, je rappelle à ceux qui prennent Bruno Neumann sur RMC en cours que le maire communiste de la ville de Stein, dans le 9-3, a inauguré une fresque en hommage à Adama Traoré et à George Floyd. Et surtout, cette fresque, elle dénonce, je cite, le racisme et les violences policières. Fin de citation. Et
j'ajoute, si tu me permets, qu'il y a une deuxième fresque. Oui. Dans laquelle on voit un policier caricaturé en membre du Ku Klux Klan avec la tenue du Ku Klux Klan en train de tuer Adama Traoré.
Voilà, mouvement néo-nazi, raciste, suprémaciste américain blanc. Voilà. Ludovic, on te rend la parole. C'était pour refaire un point.
Ouais, très bien. Donc moi, là, d'abord, quand j'ai entendu ça ce matin, je ne savais pas que le maire, tout de suite, avait inauguré cette fresque. Quand j'ai su ça, j'ai fait un bond, j'ai fait « mais c'est une blague ». C'est pas possible. Déjà, pour moi, déjà la première des choses, les deux-là, ils n'ont pas à être sur la fresque ensemble. C'est pas du tout la.
Ouais. Voilà. Le Ku Klux Klan, en plus, bon.
Alors, c'est pas sur cette fresque-là.
Adama Traoré et Floyd, je parle. Hein.
Oui, oui.
Ah, pour moi, ils n'ont rien à faire sur la fresque. Mmh. Tous les deux ensemble.
Ouais.
Parce que pour moi, le premier responsable de la mort d'Adama Traoré, c'est Adama Traoré. Mmh.
C'est-à-dire, tu dis, c'est un peu ce que tu disais il y a quelques instants. Quand on est arrêté, même injustement, on voit après avec la justice. Mais
Ludovic, je comprends que tu dis ça.
On se soustrait pas.
Pardon, là, je suis dans mon rôle, mais je suis désolé. Je comprends que tu dis ça et que tu ressentes ça, mais tu n'en sais rien. Tu ne peux pas dire que le premier responsable de la mort d'Adama Traoré, c'est Adama Traoré. Tu n'en sais rien. Je n'en sais rien. Il y a une enquête judiciaire qui est en cours depuis 4 ans. On peut d'ailleurs considérer que c'est très long. C'est très long.
Expertise, contre-expertise, expertise, contre-expertise.
Ça, c'est très long, hein, c'est que les expertises et contre-expertises demandées.
Mais oui, mais tu as raison, ne tire pas la lenteur de la justice.
Ce que je voulais dire, c'est ne tire pas, Ludovic, la conclusion avant que la justice l'ait faite. Voilà.
Ah, mais je veux dire, les policiers, il y a eu un mort et c'est regrettable. Quoi qu'il arrive, ils ont une part de responsabilité et doivent, la police en général doit y répondre. Ça, c'est évident pour moi. Mais Adama Traoré, si c'était pas mêlé de l'interpellation de son frère, s'il n'avait pas essayé de se sauver, le garçon. Parce qu'au passage, Adama Traoré, c'est péjoratif, je suis désolé. Adama Traoré, quand il s'est sauvé, moi je suis allé voir sur internet à quoi il ressemble le garçon physiquement, le garçon. Moi je suis désolé, ce garçon à deux mains, il ne veut pas obtempérer et il faut le menotter pour l'emmener. Je suis désolé, mais il faut m'expliquer comment, si on ne plaque pas au sol et on est un peu physiquement, on va dire, virulent pour l'immobiliser, il faut m'expliquer comment on arrive à le faire monter dans un fourgon.
Tu veux dire qu'il était oui, c'était un beau garçon,
un
grand gaillard, ouais. Écoute, c'est un vrai sujet. J'espère que sans idéologie, la justice.
Je retiens la phrase de Ludovic quand même. Hein. Quand je me fais arrêter par la police, je ravale ma fierté et j'obtempère, même si je suis pas d'accord.
C'est vrai.
Je retiens ça parce que c'est vrai et c'est difficile pour chacun d'entre nous quand on est arrêté parce que on a grillé un feu pour un excès de vitesse, etc. Parfois, on en a gros sur le cœur. On se dit merde, pourquoi moi, etc. Ben donc,
dès qu'on n'obtempère pas, on rentre dans le rouge. La réalité, c'est que pour un policier, un refus d'obtempérer lors d'une interpellation, on rentre dans le rouge. Et là. Les pratiques changent.
Lisa Marie, le résultat.
RMC.
Brunet Neumann.
Le qui tu choisis ?
Eh bien, vous êtes 89% d'accord avec Éric et Laurent. Donc, vous trouvez que le maire de Stein n'aurait pas dû laisser faire cette fresque.
On va remercier Ludovic qui nous appelait il y a un instant de Sargumine. Dans un instant, Éric, on va parler d'Amazon. Parce que là, on s'est un peu peigné ce matin, toi et moi. Bah oui, parce qu'il se trouve qu'Amazon veut ouvrir une demi-douzaine d'entrepôts en France, dont un de plus de 40 000 mètres carrés dans le Gard. Alors, j'entends, toi le premier, ceux qui disent, le maire d'ailleurs qui dit, bah c'est bon pour l'emploi. Moi, je prétends que c'est une catastrophe pour le petit commerce et l'environnement. On attend votre opinion, on veut vos témoignages. Tiens, si vous allez habiter à côté d'un de ces futurs entrepôts ou un de ceux qui existent, dites-nous, on a envie de vous entendre au 32-16. Brunet Neumann, on revient dans un instant. À tout de suite.
RMC, midi 14h.
Brunet Neumann.
RMC.
Il présente la même émission. Mais ils ne sont d'accord sur presque rien.
Midi 14h.
Brunet Neumann.
Salut les amis, c'est Laurent Neumann.
Bonjour mes petits amis, c'est Éric Brunet.
Oui, et là pour le coup, tout à l'heure on était d'accord, mais là on n'est pas d'accord. Et Amazon.
Tu sais quoi ? Aujourd'hui je suis le méchant, là c'est clair. Tu vas essayer de me faire passer pour l'ordure, le salopard, le pro-Amazon, celui qui est contre les commerçants français, les artisans.
Je te crois beaucoup plus subtil que ça. Mais oui, parce qu'on va parler d'Amazon.
Tu as raison.
Amazon veut ouvrir.
Je vais essayer de te prendre par derrière.
Ouais, je t'en prie. Amazon veut ouvrir une demi-douzaine d'entrepôts en France, dont un de plus de 40 000 mètres carrés dans le Gard. Ça fait débat entre nous, mais ça fait débat aussi, je peux te dire, auprès des habitants à côté de ces futurs entrepôts.
RMC.
L'avis d'Éric Brunet.
Écoute, Laurent, je ne suis pas payé.
Sois subtil, hein.
Je ne suis pas payé par Amazon. Je ne suis pas pro-Amazon. Mais je suis pro-développement économique. Dans certains terroirs où il y a peu de travail, l'idée qu'Amazon s'installe, si ça développe le commerce local, si ça aide les gens, formidable. Je dis simplement qu'il faut, moi j'aime la campagne, il faut pas des entrepôts dégueulasses, immondes, il faut quelque chose qui soit respectueux. Mais sur le principe, je suis pro-développement économique.
RMC,
l'avis de Laurent Neumann.
Bah, moi aussi je suis pro-développement économique, tu crois pas que tu vas m'avoir sur ce terrain-là.
Bah, oui,
moi
bah...
je considère qu'Amazon, c'est une catastrophe pour le petit commerce. Et je m'étonne, parce que toi, qui es un tel défenseur du petit commerce, tu devrais être de mon avis. C'est une catastrophe aussi pour l'environnement.
Et des milliers de commerçants sont sur Amazon, des Français, livrent, grâce à Amazon, livrent leurs produits dans la France entière,
oui,
et peut-être même dans le monde entier.
Quand Amazon ne les a pas obligés à fermer boutique. C'est une catastrophe pour l'environnement, hein, parce que pour faire un entrepôt de 40 000 mètres carrés, il faut artificialiser les sols.
Ça, c'est un vrai sujet.
Et en plus, je considère moi que les emplois, les fameux emplois qui vont être créés, c'est des emplois pénibles, mal payés, souvent précaires. Bref, j'y suis moi à titre personnel.
Oui, opposé. Bon, t'as raison, alors, on supprime tout. Alors.
RMC, Brunet Neumann.
Votez maintenant pour le qui tu choisis.
Toi, Elisa Marie, d'ailleurs, avant de nous dire comment on vote, je suis sûr que ça va déclencher des tas de messages. Toi, tu es consommée. Je suis sûr que tu utilises Amazon.
Alors, j'utilise Amazon, c'est vrai, Laurent.
Donc, tu es forcément pour l'installation de ces
services. Mais dis pas, c'est vrai, comme si tu avais vendu du beurre aux Allemands.
Non, c'est pas ce que je dis, parce que j'utilise Amazon. Quand je peux aller acheter près de chez moi, je vais acheter près de chez moi. Mais c'est vrai qu'Amazon, on peut pas le nier, parfois, c'est pratique. Et moi, je suis un peu partagée sur votre débat, parce que je me dis, s'ils les ouvrent pas en France, ils vont les ouvrir ailleurs, mais ça empêchera pas les Français de commander en même temps des produits sur Amazon.
Oui. Ah, il y a une idée très forte. Il y a une idée très forte, c'est que Amazon veut se développer en France parce que la France est au carrefour de beaucoup de pays européens, Espagne, Italie, Allemagne. C'est assez central et ils veulent faire des super entrepôts européens chez nous. Donc c'est ça un peu l'idée d'Amazon. Alors comment vote-t-on et quelles sont peut-être les premières tendances ?
Eh bien oui, bah c'est le moment de vous départager. Donc pour voter, rendez-vous sur rmc.fr et l'application RMC et sur nos réseaux sociaux, la page Facebook Brunet Neumann, les Twitter d'Éric et Laurent et la page Instagram RMC Off.
RMC Brunet Neumann
32-16.
Alors ça tombe bien mon petit Eric, parce qu'on est avec Ivana qui nous appelle au 32-16. Et Ivana, elle nous appelle pas de n'importe où, elle nous appelle de Fournes dans le Gard. Et Fournes, c'est la commune où Amazon projette d'installer ce fameux entrepôt.
Très intéressant.
Salut Ivana.
Salut Ivana.
Oui, bonjour.
Bonjour. Qui es-tu? Que fais-tu?
Donc, je m'appelle Ivana et je suis aide à domicile à côté de Fournes.
Oui.
Et j'ai un petit commerce, justement, sur Fournes, une petite pizzeria que je tiens avec mon mari en plus de nos travail.
Oui.
Tu
vas nous dire que tu es contre Amazon, alors?
Eh non, pas du tout. Je suis pour Amazon.
Ah, alors
je pense que nous, c'est une pizzeria, donc c'est de l'emporter. C'est une petite restauration. Après, je suis pour parce que je me dis que ça va créer de l'emploi. Même si oui, c'est des emplois plutôt précaires ou c'est sûr que c'est pénible, mais après je me dis la construction ça va créer de l'emploi, et après comme je dis aussi, s'ils le font pas à Fournes, qui est un lieu stratégique puisque c'est une sortie d'autoroute, il y a l'accès à la A7, la A9 pour aller voilà. Donc je me dis, s'ils la font pas là, ils la feront plus loin.
Alors,
et les camions passeront quand même par là. Donc de toute façon, côté écologie, je me dis, ça passera quand même par cette autoroute qui est un axe principal pour aller en Espagne. Je suis entièrement pour l'emploi.
Alors Ivana, tu vas éclairer ma lanterne, c'est Éric Brunet. Bon, moi, je déteste les projets de construction qui dénaturent l'environnement, la beauté des sites. N'oublions pas que la France...
Là, ça va être à 3 km à vol d'oiseau du pont du Gard.
Déjà, c'est 4.
Et
4 km, c'est loin. Mais j'entends ton argument. Mais n'oublions pas que le pétrole français, c'est le tourisme. Donc, c'est important. Et quand je te dis le tourisme d'ailleurs des Français en France, pas forcément les étrangers. On aime tous ces coins. Moi, le pont du Gard, en plus, c'est un des premiers. J'ai habité à Nîmes quand j'étais petit. C'est un des premiers lieux touristiques que mes parents m'ont amené visiter, etc. Bon, si je te dis ça, c'est parce que j'ai découvert que le maire avait dit, tu vas me confirmer si c'est vrai ou pas, que Amazon s'installerait
dans une zone vouée, une sorte de zone commerciale qui a été créée dans les années 70, une zone à usage économique, mais qu'au fil des années, elle n'a jamais marché cette zone. Ça a été échec de projet, il y avait un projet de village de marque, il n'y a rien qui a fonctionné. Donc c'est pour dire qu'ils ne se mettent pas sur un joli vallon en pleine campagne, ils se mettent déjà dans une ZAC, quoi, une zone d'activité, je ne sais pas quoi, économique. Oui ou non ?
À ce que je sais, oui. C'est vrai qu'il aurait dû avoir le village des marques il y a 2-3 ans, il a été fait sur Miramas. Et beaucoup d'habitants de Fournaise étaient contre ce village des marques. D'ailleurs, ben maintenant, ils vont à Miramas au village des marques.
Mmh, ouais, d'accord.
C'est un peu paradoxal. Et oui, il y a quelques entreprises qui sont fermées dans cette zone. Mais elle est vraiment axée sur l'autoroute.
Ouais,
moi, j'habite dans le haut du village, je ne la verrai pas, cette usine. Oui, quand je prendrai la route pour y aller, on passera devant, oui.
Ah bah tu verras dans l'axe du pont du Gard ce magnifique entrepôt de 18 mètres de haut, de 400 mètres de long sur 100 mètres de large. Oui, ça, tu vas le voir, je pense. Hein. Mmh,
t'es sûr de ça ?
Ah bah je suis sûr, j'ai vu les plans.
Non mais 4 km c'est loin quand même de
4 oui, km. Moi je pense que ça fait loin après.
Ivana, c'est Laurent, pardonne-moi. Tu as commencé en disant moi j'ai un métier avec mon mari, mais on tient une petite pizzeria tous les deux et moi je suis pour l'emploi, etc. C'est des arguments que je peux parfaitement entendre. Maintenant, si ton commerce c'était un commerce d'électroménager en centre-ville, si c'était un petit commerce de vêtements, est-ce que tu tiendrais exactement le même discours ? Et d'ailleurs allons jusque plus loin. On parle de 150 emplois créé sur cette zone. On peut imaginer que ces 150 emplois, ce sont des gens qui vont venir vivre ici, qui vont consommer ici, et ça risque même d'être bon pour le petit commerce local. Mais en revanche, il faut penser au petit commerce de tous les endroits ailleurs qui vont en pâtir de manière incroyable. Donc moi, je te pose la question, si tu avais un commerce de vêtements, par exemple, est-ce que tu tiendras le même discours ?
Je pense, honnêtement je pense, parce que il y a des entreprises françaises, des petites entreprises qui passent par Amazon pour vendre leurs affaires.
Alors comment se fait-il ?
Après, à quelles conditions ? Je sais pas. Peut-être qu'ils sont mal payés, peut-être que si. Peut-être... Mais bon, en tout cas, ils développent leur vente.
Très bien, Ivana. Alors explique-moi pourquoi la Confédération des commerçants, qui regroupe quand même 450 000 détaillants dans ce pays, a monté une pétition contre l'installation de ces entrepôts, pétition qui a déjà recueilli 70 000 signatures sur change.org.
Je veux bien, après, il y a 3 ans, ils avaient fait la même chose, ils avaient signé des pétitions pour pas qu'il y ait le village des marques.
Ouais, il est parti à Miramas.
Il est parti à Miramas à 3 quarts d'heure.
Alors, mais c'est dire à Miramas.
Non, je vais parler, moi, mon petit Laurent Neumann. Je vais parler.
Vas-y,
moi, je vais te raconter l'histoire du développement du train en France.
Ah non!
À la fin du 19e siècle.
Voilà. Mais non, t'as pas le droit.
Et comme ces commerçants qui se sont alliés.
Tu vas parler des taxis de la marde aussi.
Comme ces commerçants qui se sont alliés contre Amazon, il y a des gens qui ont dit le train, c'est un truc moderne, soi-disant. Mais vous savez, quand on roule à plus de 60 km/h, eh bien, métaboliquement, on devient aveugle. Il y avait des gens qui disaient on devient aveugle. Donc, le train. Et donc, tu as deux villes, la ville de Orléans et la ville de Tours, qui, à la fin du 19e siècle, ont refusé le train. Ils ont dit pas le train. Voilà, la modernité, c'est pas pour nous.
Eric.
Et c'est la même. Mais laisse-moi finir. C'est le même réflexe avec les gens qui disent pas d'Amazon chez nous. Moi, je te dis, mais laisse-moi terminer ma démonstration quand même. Je sens que tu veux me couper.
Je te laisse.
Moi, je te dis, il eût mieux valu que Orléans et Tours est une gare, parce que maintenant à Tours c'est à Saint-Symphorien, à Saint-Pierre-des-Corps, pardon, et à Orléans c'est aux Aubrais. Ils ont dû faire des raccords bien plus tard, des raccords de voies ferrées qui tout ça pour te dire que quand la modernité arrive chez toi, soit tu la récuses, soit tu dis Amazon c'est pas pour moi, c'est vraiment, soit tu essaies de l'infléchir un peu et de faire en sorte que finalement elle soit profitable pour les commerçants.
Alors très bien, moi
pour les artisans, et elle l'est déjà un peu.
Très bien. Moi, je vais te prendre un argument qui remonte pas à il y a un siècle et 20 ans. Je vais te prendre un argument d'aujourd'hui. Il se trouve que là, pendant le confinement, tous les commerces de détail étaient fermés. Et donc, que du coup, tout le monde s'est projeté vers le commerce en ligne. Eh bien, tu le crois ou pas, 83% du chiffre d'affaires du commerce en ligne, en plus dû au confinement, c'est Amazon qui en a profité. Pas les petits commerces.
Non,
pas les petits commerces même qui avaient eu l'intelligence de se mettre sur le net et de vendre en ligne.
Justement.
83%, ça veut dire que demain, si Amazon s'installe massivement en France en installant des entrepôts de tri, on parlera d'ailleurs des conditions sociales plus tard, c'est même pas le sujet, eh bien les petits commerces, je te l'affirme, et ça n'a rien à voir avec ton exemple du train, les petits commerces en pâtiront. Et si la Fédération des commerçants est vent debout contre ça, il y a
Lisa Marie, Lisa Marie, elle est jeune, elle utilise Amazon. C'est comme si tu disais, il faut arrêter les smartphones. Amazon s'est rentré dans les pratiques quotidiennes, surtout des gens en ville, des citadins. C'est formidable. Moi, un jour, ma fille, écoute-moi, un jour, ma fille oublie un manuel scolaire. Elle avait oublié de nous demander de le commander. Je vais voir dans une librairie. C'était un samedi soir, un samedi en fin d'après-midi. Je trouve, il nous faudra 5 jours. Mais il le faudrait pour lundi matin. C'était le samedi. Ah non, il faut 5 jours. On va le commander. Une librairie de livres. Je suis un amoureux des livres. Je suis publié des livres. C'est ma passion, les livres. J'en ai des centaines à la maison. Je lis comme un forcené. Et ben, tu sais quoi? Je suis rentré chez moi. J'ai dit à ma fille, mais tu l'auras pas avant jeudi.
Sauf que les gens achètent leurs livres chez Amazon et qu'il n'y a plus de libraire en bas de chez toi.
Et
c'est un drame.
Et ma fille m'a dit,
c'est
mais papa,
drame.
Toutes mes copines, elles l'ont commandé sur Amazon.
C'est un drame.
J'ai dit, mais sur Amazon, tu l'auras dans 5 jours aussi.
Voilà.
Elle m'a dit, ah non, sur Amazon, on l'aura demain matin.
Tu lui diras de ma part.
Le mec, il nous l'a livré le dimanche.
Tu lui diras de ma part qu'elle contribue à sa modeste. Avec sa modeste contribution, elle contribue à la mort des librairies.
Oui, tu as raison, mais ce que je veux dire, c'est que tu ne peux rien contre le progrès en marche. Donc, il vaut mieux l'épouser, le progrès en marche. Il vaut mieux l'épouser pour l'infléchir légèrement.
Ça te tue, mais il faut l'accepter.
Non, ça te tue pas. Tu vas voir, ça te tue.
Marie.
Je voudrais vous lire un message de Ludovic qui s'adresse à toi, Laurent. Il te pose la question, puisque tu es contre Amazon, il te demande si tu es aussi contre les concessionnaires automobiles qui ont tué les petits commerces de Maréchal Ferrand.
Parce que c'est le même exemple qu'Éric avec son train. Le train, très bien. Mais le train, vous êtes très bien, on ne circule plus avec des carrioles. Formidable. Il n'y a plus de Maréchal Ferrand parce qu'on ne se déplace plus à cheval. C'est autre chose, ça. Mais si les gens veulent la disparition du petit commerce, alors qu'ils ne viennent pas pleurer quand il y a des manifestations de gilets jaunes, qu'ils ne viennent pas pleurer voyant les petits commerces disparaître, il n'y a plus de services publics, plus de postes, plus de banques auprès de
mais
chez eux.
Je vois pas le rapport.
Et qu'il faut faire 40 km pour aller.
Amazon dans des tas de pays et les banques ne ferment pas.
Là, c'est
du niveau de.
Éric, c'est partout pareil.
Non, je te jure que non. Là, c'est du niveau de US Go Home, du Parti communiste français, dans les années Torres. Voilà, US Go Home, on n'aime pas les Américains. Amazon
n'a rien à voir. Je dirais
Amazon,
la même chose d'Alibaba pour les Chinois ou de Cdiscount qui est français.
Tout ça.
Je dis la même chose. Je dis attention, on ne peut pas pleurnicher. Toi, le premier qui en fait un combat personnel pour défendre les petits commerçants, tu ne peux pas être et pour Amazon et pour les petits commerçants.
Tu te trompes.
Faut que tu choisisis ton camp, mon gars.
Et je suis
en même temps à la Emmanuel Macron,
pour le Bourgogne, et je suis pour le Bourgogne et pour le Bordeaux.
Mais oui, tu prends que des exemples qui n'ont rien à voir.
Non, je te dis que c'est une position idéologique comme le US Go Home du Parti communiste français dans les années Torres.
Aujourd'hui, tu prends ta voiture, tu traverses des villages entiers où il n'y a plus de commerçants, c'est pas idéologique,
mais
c'est un fait.
Tu crois quoi?
C'est un fait.
Tu crois quoi que dans des villages de 300 habitants, il y aurait plein de commerçants si Amazon n'existait pas?
C'est une émission à marquer d'une pierre blanche. Si tu penses ce que tu dis, tu n'auras plus le droit de m'expliquer que tu es le grand défenseur des commerçants.
Voilà. Moi, je connais la ruralité. Depuis toujours, j'en viens. Et avant Amazon, dans la ruralité, il n'y avait déjà plus de commerce il y a quelques années, avant qu'Amazon, je ne te dis pas dans les années 50, dans les années 2005, avant qu'Amazon n'existe, il n'y avait déjà plus de commerce. Donc arrête de dire, c'est très facile d'avoir une valeur
pour
soi. Un punching ball. Le punching ball de tout le monde, c'est Amazon. Amazon, si on a des problèmes, c'est à cause d'Amazon.
Raison.
Trop facile.
Il y a peut-être une raison.
Trop facile, comme disent mes filles.
Et on n'a pas encore parlé. Toi, le grand pourfendeur des impôts, t'as pas encore expliqué qu'Amazon payait ses impôts à l'étranger.
Non, mais ça, c'est un problème.
Ah, bah non, mais attends, tout est un problème, mais on fait comme si ça n'existait pas.
Non. Voilà. Je dis, le modèle de la livraison à domicile est un modèle qu'il faut épouser intelligemment plutôt que de le repousser. Après, je déteste les entrepôts dégueulasses qui sont vilains à côté de sites historiques, c'est insupportable. Je suis pas un pro Amazon, je suis un pro business, un pro développement économique.
Moi, j'aimerais bien, Eric, que des petits commerçants nous appellent, notamment peut-être quelqu'un de la Confédération là des commerçants, ils sont 450 000.
Je te rappelle que la commune de Fournaise toucherait 150 000 euros de taxes foncières chaque année s'ils s'installaient.
Et 150 emplois.
150 emplois, je veux dire, c'est pas négligeable.
Mais 15 000 emplois détruits.
Mais non, bien sûr que non.
Ah si. Le plan de développement massif d'Amazon, toutes les projections disent la même chose, c'est 15 000 emplois détruits. Quand ça t'arrange pas, c'est non. On va remercier Ivana, qui nous appelait de Fournaise, c'était intéressant de l'entendre. On ira à Montélimar, parce qu'il y a Marco qui trépigne, qui a envie de dire des choses sur Amazon. On ira aussi dans le Haut-Rhin. Bref, on vous attend, les amis, au 32-16. Brunet Neumann, c'est RMC, c'est votre rendez-vous. On est là pour vous, à tout de suite.
RMC, midi 14h, Brunet Neumann. RMC, midi 14h.
Brunet Neumann.
Éric Brunet.
Qu'est-ce que
Laurent
tu disais?
Neumann.
Qu'est-ce que tu disais, Laurent, là? Termine ta phrase. Pendant la pub, tu disais, je vais vous dire la vérité, pendant le confinement, j'ai...
Pendant le confinement, j'ai fait... Je dis la vérité à tous ceux qui nous écoutent. Pendant le confinement, oui, ouais. J'ose le dire. Ouais. J'ai fait appel à Amazon pour une raison très simple. C'est que les cartouches d'encre dont j'avais besoin étaient indisponibles sur tous les sites que j'ai essayé, il n'y a qu'Amazon qui a réussi à me trouver deux cartouches d'encre. Ouais. Pas trois, quatre,
c'est ce
dix,
que tu viens de faire,
il en restait deux.
Tu viens, de te renier, puisque c'est aujourd'hui, je te rappelle tu dis que Amazon est une catastrophe pour le petit commerce et l'environnement. Et deux.
Oui, je te rappelle, pardon, juste un mot.
Tu viens de faire une grosse pub pour Amazon.
Non, mais juste
parce que tu viens de dire, eux, ils m'ont livré, les autres n'étaient pas capables de le faire.
Tu as entendu le début de ma phrase. Ouais. J'ai dit pendant le confinement, pourquoi? Parce que tous les magasins étaient fermés. Et donc un jour, quand il n'y aura plus que Amazon parce que les magasins auront fermé, tu seras obligé d'acheter chez Amazon.
Alors, les amis, les faits, vous les connaissez. Amazon, qui considère que la France est une localisation très stratégique au cœur de l'Europe, veut ouvrir une demi-douzaine d'entrepôts en France, des entrepôts logistiques assez grands pour livrer, dont un qui ferait plus de 40 000 m² dans le Gard. Alors, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'emploi, même si je suis pas un fanatique d'Amazon. Pour moi, la question de l'environnement, de la bétonisation est centrale, mais je pense plutôt que je suis pour le développement économique. Laurent, lui, vous l'avez entendu, considère qu'Amazon est une catastrophe pour le petit commerce et l'environnement. Comment votez-vous ?
RMC, Brunet Neumann.
Votez maintenant pour le qui tu choisis.
Eh bien, pour le moment, Eric, tu es en tête avec 59% des voix et j'en profite pour vous lire un ou deux messages. Un message de Jonathan qui te répond, Laurent, et qui dit « On n'a pas inventé l'électricité en cherchant à améliorer la bougie. L'innovation passe par des choix et des sacrifices. »
Mais l'innovation, c'est pour que ce soit mieux. L'électricité, c'est mieux que la bougie. Le train, c'était mieux que la carriole.
Et oui, toi,
en quoi Amazon, c'est mieux que le petit livré, commerce de proximité?
T'as été livré plus tôt.
Mais parce que les magasins étaient fermés, chérie.
Un message de Didier qui dit « Je suis plutôt pour, mais ma crainte, c'est que l'entrepôt soit ultra moderne avec des robots et pas des humains. Ce serait un peu dommage.
» Je vous propose d'écouter le maire de Fournaise, justement, cette petite commune dans le département du Gard. Il s'appelle Thierry Boudineau et il nous explique pourquoi il est plutôt favorable à l'implantation dans sa commune de cet entrepôt Amazon.
Nous, c'est pas tant le projet d'Amazon en particulier qui nous tient à cœur. On a subi sur notre territoire, communauté de communes du Pont du Gard, de grosses pertes en matière d'économie et d'emploi. On a eu beaucoup de licenciements. Donc on a vraiment besoin de développement économique. 200 emplois, ça serait très bien. 150 emplois, on les prend aussi. On en est là.
Ouais, alors donc, vous avez compris, les amis, le maire, Thierry Boudineau, le maire de Fournaise, dans le Gard, il est plutôt pour. Moi, j'ai tenu à ce qu'on ait au téléphone Annie Chapelier. Elle est députée écologie, démocratie, solidarité du Gard. Et je crois, Annie Chapelier, que vous, à titre personnel, vous y êtes opposée. Je crois même que vous avez co-signé une proposition de loi avec Delphine Bateau pour, je cite, protéger le commerce de proximité de la concurrence déloyale. Amazon, ce serait déloyal vis-à-vis du petit commerce.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Vous me posez beaucoup de questions à la fois.
Il est comme ça.
Oui, j'ai co-signé effectivement la proposition de loi de ma collègue Delphine Bateau qui permet de poser avant tout une réflexion sur le type de commerce que nous voulons pour demain. Puisque cette proposition de loi engage un moratoire sur les permis de construction des entrepôts. Parce que la question de fond, finalement, c'est celle-là. Quel type de commerce voulons-nous pour demain? Les exemples que vous avez donnés pendant le confinement, Amazon ne pouvait vous livrer, les commerces de proximité étaient fermés.
Bah oui.
On peut quand même imaginer que l'avenir ne sera pas une période de confinement infini et qu'on va de nouveau reprendre des relations sociales. Je pense que le commerce, c'est déjà une des manifestations des relations sociales les plus importantes.
D'ailleurs, pardonnez-moi, Annie Chapelier, vous me le confirmez, mais je crois que le surplus de chiffre d'affaires que le commerce en ligne a réalisé à cause ou grâce au confinement, au fond, a profité à 83% à Amazon.
Oui, tout à fait. Jeff Bezos est la personne qui s'est le plus enrichie au monde pendant la période du confinement, puisqu'il a augmenté sa fortune personnelle de près de 30 milliards d'euros, de dollars, pardon. Je suis française, je pense en euros. Et il a augmenté de 26% effectivement son chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment, ça montre que l'agilité, la flexibilité du concept d'Amazon, tout simplement, qui, face à une crise que personne ne pouvait prévoir et face à laquelle beaucoup de gens ont été démunis, eh bien, des organisations comme celle d'Amazon, dans le commerce, ont montré leur capacité à réagir et à répondre à une demande qui est celle de consommer que tout le monde a, que tout être humain a naturellement. Ouais. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'il faut réellement non seulement s'interroger, mais se poser les questions de ce que nous souhaitons avoir comme type de commerce. Parce que, je le répète, on ne peut pas imaginer un monde où on serait en permanence confiné et où finalement la relation commerciale se traduirait que par des échanges internet et des choix numériques que nous faisons sur notre tablette. Le commerce, c'est beaucoup plus que cela. Les conséquences qu'engendre Amazon sont énormes, en particulier sur le choix des produits qui sont pour la plupart au bout du monde, dans des entreprises délocalisées, et puis localement, évidemment, ce que ça implique, ben, ça implique d'avoir un commerce qui fructifie, mais qui par contre ne participe pas aux efforts nationaux, puisqu'ils sont très peu taxés. Grâce à des pirouettes logistiques, fiscales que maîtrise parfaitement Amazon, qui font que leurs bénéfices ne sont pas taxés. Et puis,
Madame la députée, c'est Éric Brunet, je souscris avec vous, d'ailleurs vous êtes écologiste, je rajouterai à la liste la question de la bétonisation. On va en reparler, mais je suis plutôt, moi, favorable à cette implantation, avec beaucoup de bémols, en particulier sur le plan environnemental, écologique, sur le plan de la taille des entrepôts. Et puis, effectivement, mais quand vous invoquez la question des commerces de proximité, il n'y a pas un consommateur d'Amazon qui ne souhaite pas les deux. Moi, j'utilise Amazon, mais j'utilise aussi beaucoup en tant que consommateur averti et intelligent. Je ne suis pas un neuneu. Je sais que les commerces de proximité, c'est très important. Je les aide, mais parfois, là où ils ne sont pas très présents, j'utilise Amazon. Ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'il n'est pas contre-productif de se dire, finalement, nous récusons cette forme de modernité et puis advienne que pourra. Parce que, finalement, la redoute est mort, enfin, a beaucoup souffert de ne pas s'être adapté à la question de la livraison, comme Amazon. La Camif, souvenez-vous, la Camif, ben, même chose. Les Trois Suisses, moi, il y a quelques années, les Trois Suisses faisaient partie de mon quotidien. Il y avait des catalogues des Trois Suisses à la maison, etc. Ils ont tous échoué face à Amazon parce qu'ils ne se sont pas préparés à cette nouvelle donne. Aujourd'hui, beaucoup de gens commandent sur Amazon ou ailleurs.
C'est discount. Parce que l'exemple que vous donnez est quand même édifiant, effectivement. Mais le seul point commun quand tous les exemples que vous donnez avec Amazon, finalement, c'est le commerce à distance et rien d'autre. Parce que, par ailleurs, Amazon, elle, repose sur des concepts qui n'avaient rien à voir avec les Trois Suisses ni la Redoute, qui étaient des concepts et d'abord une optimisation fiscale. Ce qui est quand même leur cœur de profession, quand même, pour Amazon. Quoi. Je veux dire, tout est pensé à l'aune de l'optimisation fiscale, tant au niveau des taxes, mais également, et c'est là où on arrive sur des choses quand même incroyables, c'est qu'ils ils sont les premiers à chasser les aides publiques. C'est-à-dire que là, par exemple, le Fournaise, il va falloir faire des aménagements routiers. Qui va les payer? Ça va être le bien public, ça va être le bien commun qui va payer la création de routes, de ronds-points si nécessaire. Enfin, je ne sais pas comment ça va être agencé. Mais ce seront, et là, ils feront la chasse aux aides publiques pour pouvoir permettre cet aménagement routier.
C'est vrai, c'est vrai.
Donc, là aussi, vous voyez, tout est conçu dans l'idée de l'optimisation fiscale. Et l'autre point, c'est également l'exploitation par le travail, quelque part, puisque on fait miroiter des emplois, tout en sachant que la robotisation est de plus en plus importante chez Amazon. Et que donc il y a de moins en moins d'emplois tout simplement portés par des travailleurs, et que ces travaux, ces métiers sont de plus en plus précaires. Et là, l'exemple de Fournaise est encore une fois édifiant. On est parti sur près de 1000 emplois, on est tombé ensuite à 600, et puis finalement il s'avère être 150.
Ouais.
Et le rapport de Mounir Majoub là-dessus est éloquent. Si bien que pour un emploi créé dans ce type de e-commerce, il y en a 2,2 qui disparaissent du fait de la création de ces emplois.
Ouais.
Donc, peut-être que dans les environs de Fournaise, il va y avoir 150 emplois précaires.
Mais combien d'autres qui seront supprimés, bien sûr.
Mais il y en aura plus de 320 qui vont disparaître par ailleurs, soit à proximité, soit sur l'ensemble du territoire national.
Merci.
Donc, à un moment, il faut voir plus loin que le bout de son nez, quand même.
Merci, Annie Chapelier. C'était intéressant d'entendre tous ces arguments. Je rappelle que vous êtes députée écologie, démocratie, solidarité du Gard, que vous avez co-signé avec Delphine Bateau une proposition de loi pour protéger le commerce de proximité de la concurrence déloyale, celle d'Amazon en l'occurrence, ça pourrait s'appliquer. Merci à vous d'avoir été dans Brunet Neumann. Vous, les amis, vous continuez à nous appeler au 3216. Je vous avais promis qu'on irait à Montélimar. On y va dans un instant. On ira aussi dans le Haut-Rhin. Tiens, c'est deux régions où Amazon compte peut-être s'implanter. On posera la question à nos amis. Vous êtes très nombreux à nous appeler. On vous attend dans Brunet Neumann sur RMC. À tout de suite.
Midi 14h.
Brunet Neumann.
RMC, midi 14h.
Brunet Neumann.
Éric Brunet.
Laurent Neumann.
Bon, mon Laurent, là, c'était intéressant ta tirade pendant la pub. Alors, tu nous disais, je suis contre Uber, je suis contre Amazon, t'es contre tout ce qui est moderne. Toi, t'es pour le fiacre, hein, pour le carrosse, pour les maréchaux ferrants, je sais pas comment on dit.
J'adore quand tu caricatures mais ma position. Non, heureusement que personne ne te croit.
Heureusement que le concept de livraison à domicile.
La livraison à domicile.
Heureusement que ça existe, mais toi, tu habites dans une zone rurale, mais Amazon qui t'amène ta cuisine en pièces détachées, mais c'est un miracle, c'est formidable le progrès que ça constitue pour la praticité, le quotidien, Lisa Marie. Bah,
puisque tu dis ça, je vais te lire un message de Mathieu sur Direct Studio. Bonjour, je vis dans un village de 4500 habitants et je collectionne les DVD. Amazon me livre en 48 heures au lieu que je fasse 20 km pour me rendre compte que le magasin n'a pas ce que je veux et qu'il y a 10 jours d'attente si je veux le commander.
Alors, sors-le ton argument misérabiliste là, pour faire pleurer. Vas-y.
Le drame qui est terrible, c'est qu'il soit obligé de faire 20 km pour acheter ce dont il a envie. On va aller au 32-16.
RMC, Brunet Neumann.
32-16.
Je vous avais promis Marco. Il est là, il nous appelle de Montélimar dans la Drôme. Bonjour Marco, bienvenue sur RMC.
Bonjour Marco.
Bonjour à vous.
Oh. Oui, parle bien devant ton téléphone, mon Marco.
D'accord. Alors, bon, moi je suis de Montélimar.
Ouais.
Si vous voulez, il y a l'entrepôt, je ne sais pas, il y a peut-être.
Non, Marco, parle devant
ton téléphone.
Non, Marco, on te rappelle tout de suite. On te rappelle tout de suite et on va passer à Florian, qui est en Alsace. Bon, on quitte la Drôme, on va dans le Haut-Rhin, à Ungenheim. Bonjour, Florian.
Egenheim.
Je ne suis pas très bon en Alsace.
Bonjour, Laurent. Bonjour, Eric.
Salut,
oui, effectivement,
Florian.
C'est Egenheim.
Salut, mon cher Florian. Bon, alors, salut. Est-ce que tu es un rétrograde comme Laurent Neumann ou un moderno-progressiste comme Eric Brunet?
Sans sentiment et sans âme.
C'est ça.
Bah, écoutez, je vais vous dire que Laurent n'a pas tout à fait tort. Mais pour moi, il y a deux sujets qu'il faut distinguer. Le premier, c'est le commerce en ligne. C'est vrai que Laurent a raison là-dessus. Le commerce en ligne supprime des milliers d'emplois et c'est quelque chose qui est très néfaste pour les commerces de proximité. On le voit notamment dans les commandes de baskets, de vêtements et de plus en plus de commandes en ligne. Mais le problème, c'est qu'il y a un autre sujet qui, pour moi, est beaucoup plus important et beaucoup plus problématique. C'est le libéralisme européen et la compétition européenne. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si on revient à la période du confinement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les salariés de Amazon voulaient faire fermer l'entrepôt parce qu'ils trouvaient que l'exercice de leur activité était incompatible avec les problèmes liés au Covid. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Amazon? Ils ont tout fermé et ils ont livré depuis l'Allemagne, depuis l'étranger. Donc c'est là où est le problème, c'est que avec la compétitivité européenne, les frontières qui s'ouvrent, si on dit Amazon, non, on ne veut pas de vous, allez ailleurs, ils iront ailleurs.
Oui,
livreront tout de même quand même les clients français qui vont continuer à acheter ces produits sur Amazon.
Florian, pour moi, il n'y a pas de débat. Même les marques d'horlogerie suisse qui sont multiséculaires, qui sont là depuis 1600, font du e-commerce. Les mecs, arrêtez, il n'y a pas de sujet. C'est comme si vous étiez contre les pneus. Voilà, c'est comme si vous étiez contre... c'est comme ça, le chauffage dans les maisons. Voilà. Ça fait partie de la vie. Il n'y a pas de débat.
Tu as le droit de tenir ça, mais tu ne viendras pas m'expliquer que tu es le chevalier blanc des petits commerçants.
Si.
Voilà. Bah non, il faut choisir ton camp.
Parce que les petits commerçants, ils vont utiliser de façon intelligente le e-commerce. Parce que dans e-commerce, il y a commerce. Voilà. Et quand tu es commerçant, tu fais du e-commerce parce que tu es malin. Voilà. Ou autrement, tu restes au bord de la route. Voilà.
Eric, pardon, je t'interromps. Tu sais qu'on était il y a quelques instants avec Annie Chapelier, la députée du Gard, hein, et figure-toi que le maire de Fournaise a écouté Brunet Neumann, il a écouté Annie Chapelier. Qu'est-ce qu'il a fait, à ton avis? Hop, il a décroché son téléphone.
Génial.
Et il est avec nous.
Bonjour, monsieur
le maire.
Ouais, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci. Bonjour. On est flatté de vous avoir avec nous au télé, dans Brunet Neumann.
Je me suis permis d'intervenir. J'ai pris votre émission en cours de route. Oui. Et j'ai entendu la fin de l'intervention.
Parlez bien devant le téléphone parce que c'est un peu
sourd. Oui, tout à fait.
Ah là, c'est bon. Là.
Et j'ai entendu la fin de l'intervention de Madame Chapelier. Et ben, je constate quand même que beaucoup de personnes qui se prononcent sur ce dossier n'en ont aucune connaissance.
Alors, qu'est-ce que vous voudriez rectifier?
Concernant l'accès au site, puisqu'elle disait que ça allait engager de l'argent public, il n'en est rien, puisque la rentrée sur le site se fera par un aménagement en rond-point qui est pris en charge en totalité par l'aménageur, d'une part. Ensuite, ça va nous permettre quand même, sur une petite portion de départementale, puisqu'il y a 300 mètres pour rejoindre l'entrée d'autoroute 23, on avait un angle quasiment droit sur cette départementale, qui était très désagréable déjà pour le trafic existant, et qui va être repris de façon correcte et qui va faciliter les choses à tout le monde.
Monsieur le maire, comment vous expliquez, en revanche, qu'elle a donné un chiffre, moi, qui m'a fait sursauter, comment vous expliquez qu'au départ, le projet, c'était 1000 emplois, puis 600, et maintenant, tout le monde a l'air de se contenter de 150 emplois?
Non, alors sur les documents d'enquête publique et les documents officiels, il est fait état de 240 équivalents temps plein. Voilà, donc nous, on s'est raisonné à 200 emplois, sachant que vous m'avez fait intervenir tout à l'heure, c'était sur une autre émission, mais c'était très bien. On a perdu énormément d'emplois sur le territoire, sur notre territoire, avec la fermeture de la centrale thermique d'Aramon, avec la fermeture ou quasi-fermeture du site Vitambal qui était spécialisé dans les emballages plastiques. Mmh. Et de ce fait, nous avons un besoin important de développement économique et de création d'emplois.
Et monsieur le maire, qu'est-ce que vous répondez à la Confédération des commerçants qui représente quand même 450 000 détaillants et qui explique que c'est une catastrophe pour les petits commerces?
Écoutez, a priori, il y a quand même beaucoup d'entreprises en France qui travaillent avec ce site-là, avec Amazon. Moi, je raisonne un petit peu à mon échelle locale. Hein. Je vois, nous avons un petit commerce sur Fournaise. Fournaise, c'est 1098 habitants. Nous avons un seul et unique commerce qui a joué un rôle majeur pendant la crise du Covid. Ben, je m'aperçois que nos opposants locaux ne se servent pas au petit commerce. La défense du commerce local, ça démarre à votre porte, déjà. Ensuite, je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie derrière tout ça, parce que les gens qui montent au créneau, et notamment Madame Bateau, Delphine Bateau, qui va déposer un projet de loi, si ce n'est fait, je vois Madame Lepage qui s'était prononcée aussi contre ce site. Je vois certaines personnes qui gèrent des associations locales ou autres qui interviennent aussi contre ce projet. Mmh. Si vous tapez leur nom sur Internet, le premier accès que vous avez, c'est sur la plateforme Amazon, avec tous leurs bouquins à la vente.
C'est
un petit constat à notre échelle, mais c'est quand même qu'ils soient les premiers vertueux.
Ouais. Thierry Boudinot, dites, c'est Éric Brunet. Moi, je suis très sensible à la question environnementale. Je suis d'un coin dans le sud-ouest où, autour de beaucoup de villes, notamment la préfecture de mon département Auch, on a construit dans les années 70, 80, 90 beaucoup d'entrepôts, vous savez, en tôle. Voilà. Et puis certains ont été abandonnés. Et c'est terrible parce que cette capitale de la Gascogne, finalement, qui est une très jolie ville, hein. Les accès sur des kilomètres, vous avez c'est vraiment disgracieux au possible. Or, vous le savez bien, les visiteurs intérieurs, le tourisme intérieur ou étranger, c'est de l'or pour nous. C'est le pétrole français, le tourisme. Et faut faire gaffe. Là, on est à 4-5 kilomètres, paraît-il, du pont du Gard. Cet entrepôt va être géant. Comment faire pour que ce soit pas disgracieux?
Je voulais corriger aussi, vous avez dit, ou alors je ne sais plus qui l'a dit, que c'était supérieur à 40 000 mètres carrés. C'est exactement 37 500 mètres carrés. Alors justement, les élus locaux ont travaillé et ont exigé que le bâtiment soit en retrait de la sortie immédiate de l'autoroute. Hein. Il faut savoir que cette zone représente 17 hectares. Le site en représentera 13, dont 37 800 couverts. Et on a demandé à ce qu'il soit le plus en retrait possible de la sortie d'autoroute et du rond-point principal.
Je peux vous poser une petite question. Juste une question. Ouais. À Notre-Dame-des-Landes, on a fini par faire un référendum. Est-ce que vous êtes occupé de recueillir l'avis de vos concitoyens, pas d'ailleurs seulement ceux de Fournaise, mais peut-être des autres villes de la région. Est-ce que un projet de cette ampleur-là ne mériterait pas un référendum local?
Ça, c'est peut-être à l'État de le dire et à de mettre en place ce genre de procédé. Mmh. Au niveau local, nous avons maintenu nos permanences pendant tout le mandat, c'est-à-dire que tous les premiers mercredis du mois, nous recevons les administrés qui le souhaitent pour évoquer différents problèmes. Nous avons reçu au tout début les personnes qui étaient opposées à ce projet, mais vu la façon dont ils réagissaient et que le dialogue n'était pas possible, nous avons coupé les ponts. Mmh. Quand vous les faites venir en mairie, que vous discutez avec eux, que vous apercevez en fin de réunion qu'ils vous ont enregistré à votre insu, ils vous demandent de les recevoir en mairie une seconde fois, qu'ils viennent accompagnés de personnes qui ne souhaitent pas décliner leur identité, quand vos propos sont systématiquement déformés ou mensongers dans le journal, dans la presse locale le lendemain, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de dialogue possible.
Ouais. Merci Thierry Boudilot.
Ça concerne une poignée très particulière
dire que localement, forcément, le sujet est éruptif.
Ça, mais ce qui est intéressant, terminer,
peut-être
Laurent.
Peut-être pas tant que ça, finalement.
Ce qui est intéressant, c'est que en 2020, c'est plus comme avant. Les choses, les projets, c'est plus qualitatif. On fait plus un entrepôt en 2020 parce qu'il y a les questions environnementales, etc., comme on les faisait il y a 15 ans. Ouais. C'est peut-être ça, la chance de Fournaise.
C'est sûr de ça?
Ouais, je suis sûr. Ouais. Même un hypermarché, tu sais que je suis plutôt contre la bétonisation, même un hypermarché qui sort du sol aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus classe qu'il y a 15 ans.
On va remercier notre ami Degenheim qui était avec nous il y a quelques instants. On va remercier Thierry Boudilot, le maire, qui a pris son téléphone pour réagir. Et c'est ça, Brunet Neumann, on réagit en direct comme vous au 32-16. Dans un instant, on ira voir comment vous nous avez départagé, Éric Brunet et moi. On ira faire un petit tour du côté de Lisa Marie. Et puis, on ira voir notre Français de l'étranger. Tiens, je vous dis pas où précisément, mais on part en Italie. Tu vas voir.
Le mec est jamais. Je suis sûr qu'on va en Suède. Non, Brunet, c'est en Italie.
C'est en Italie. Allez, à tout de suite. Brunet Neumann, on revient sur RMC.
RMC. Brunet Neumann.
RMC, midi 14h.
Brunet Neumann.
Éric Brunet.
Laurent Neumann.
Alors, Amazon va ouvrir une demi-douzaine d'entrepôts en France. C'est des projets pour le moment. Il y en a un, notamment, de 40 000 mètres carrés dans le Gard. On a entendu le maire à l'instant.
On refait pas ta propagande, là. Il faut le résultat du vote, là.
Le maire, il y a quelques instants, y était favorable. On a entendu une députée du Gard qui, elle, n'y était pas favorable. Ça représente assez bien notre opposition ce matin à toi et à moi, Éric. On va voir effectivement comment tous ceux qui nous écoutent dans Brunet Neumann nous ont départagés.
RMC.
Brunet Neumann.
Le qui tu choisis?
Alors, Amazon veut ouvrir de nouveaux entrepôts en France. Eh bien, vous êtes 65% d'accord avec Éric à trouver que c'est une bonne nouvelle.
Alors là,
les gars, vous venez,
non, mais là,
vous venez plus me chauffer les oreilles avec le commerce de proximité. Ouais. Je reviendrai et je demanderai à Donatien, qui est en régie, de passer des extraits de cette émission.
Mais tu sais quoi ?
Attends, ça, tu me refais pas le coup, Éric.
Les temps changent et les gens.
Voilà, et Donatien, il me dit dans l'oreillette, la bande est de côté enregistrée, mon gars.
Là, tu sais quoi ? La différence entre maintenant et il y a 2-3 ans, c'est que tous les Français ont appris le e-commerce, à commander sur Internet. Et ils n'ont pas envie que ça disparaisse. Ils y sont attachés à cette nouvelle.
Comme je ne suis pas rancunier, je t'emmène en Italie.
RMC.
Midi 14h, Brunet Neumann.
Mesdames, Messieurs, nous allons acquérir dans quelques instants le Français de l'étranger.
Et nous sommes avec Guillaume, qui
à Milano.
A 25 ans à Milano. Bonjour Guillaume.
Salut Eric, salut Laurent.
Comment ça va Guillaume à Milan?
Alors, tout va bien. Alors, je suis en vacances depuis samedi, donc je ne suis plus 3 à Milan.
Ah, t'es où là ?
Je suis descendu sur la Toscane, sur la côte.
Magnifique.
Sur de profiter un peu de la mer.
Tu es où précisément là en Toscane, juste pour nous faire rêver? J'adore cette région.
Castiglione della Pascaia, c'est vers le sud de la Toscane, c'est en face de l'île d'Elbe.
Ah, oui.
En face de l'île d'Elbe.
Ah oui.
Napoléon.
Oui.
Et dis-moi, donc, on Milan, alors que tu as 25 ans, tu y as grandi ou tu y es depuis peu de temps?
Non, j'ai pas grandi, j'ai un contrat VIE, donc je suis en détaché avec une entreprise française.
Redis à Eric ce que c'est qu'un contrat VIE, parce qu'il vient de me faire un signe en me disant c'est quoi VIE?
VIE, c'est quoi?
Alors, VIE, alors littéralement, c'est un volontariat international à l'étranger, et plus, de façon plus simple et plus factuelle, c'est un, c'est une mission, un contrat qui est régi par le Business France qui permet à des jeunes diplômés comme moi de partir à l'étranger avec une entreprise française.
D'accord, compris. Bon, Milan, joli choix, hein, c'est une ville extraordinaire, Milan, que ce soit pour l'entreprise, le business, c'est l'Italie, c'est tout près des lacs magnifiques, lacs de Côme, lacs de Garde, etc. Et la mer, tout. Quoi.
Magnifique. Ouais, non, c'est top. Milan, c'est vraiment bien. Ouais. Milan, il y a tout ce qu'il faut, c'est dynamique, c'est vivant, ça sort, c'est au niveau business et au niveau travail, c'est the place to be.
C'est quoi la vie d'un jeune français comme toi à Milan? Bon, la semaine, j'ai bien compris, tu bosses, mais quand tu as un peu de temps libre, le soir, les week-ends, on fait quoi à Milan?
On fait des, bon, hors Covid. L'apéro typique milanais. On fait des sorties le week-end. Depuis que le Covid est terminé, on a commencé à rebouger un petit peu. Donc Eric, il parlait des lacs de Côme. Hein. On est allé. Je suis parti il y a 3 semaines à Como. Après, on est allé à Verona. Là, Toscane maintenant. Après, être à Florence le week-end dernier. On bouge un peu plus, un peu chaque week-end, dès qu'on peut.
Et le Covid, ça a été terrible, il paraît, à Milan. Ça a été, mais la Lombardie, c'était incroyable.
La Lombardie, c'était la région la plus touchée de l'Italie. Mmh. Et d'un côté, heureusement que c'était plus le nord qui était touché que l'Italie, parce qu'au niveau infrastructure, ça n'a pas forcément de... Ça n'a rien à voir entre le sud et le nord. Mmh. Le Milan, c'était une vie assez particulière. Moi, je suis arrivé à Milan, j'habite à Navili, qui est le quartier vraiment vivant de Milan, qui se couche jamais.
Ouais, c'est le quartier latin, quoi. C'est un peu le quartier latin.
Ah, mais c'est pas là où se trouvent des canaux?
Si, Navilo Grande.
C'est sublime, avec notamment des petites maisons le long des canaux, mais
exactement,
que c'est beau.
Exactement.
Ah
ouais. C'est magnifique, ça vit tout le temps. C'est bon, quand on fait ses études, c'est pas forcément l'endroit où aller, parce que vraiment, on dort pas.
Guillaume, toi, à l'origine, en acceptant ce VIE, c'était pour une période déterminée. Est-ce que tu as l'intention de rester, de t'installer en Italie pour de longues années, ou tu as envie de revenir en France?
Non, parce qu'en fait, moi, j'ai une petite chance avec ce VIE, c'est que je le fais sur 3 pays. Donc, je vais vivre à Milan jusqu'à fin septembre. Après, je vais aller vivre à Madrid. Et après, je vais aller vivre à Munich. Ouais. Donc, ça, c'est sur une période de 2 ans.
Et tu nous rappelleras quand tu seras à Madrid, puis à Munich.
J'ai choisi trois M. Milan, Madrid, Munich.
Trois grandes équipes de foot. Hein.
Ouais. Et je peux te dire une chose, exact, mon pote. Quand tu vas être à Madrid, soudainement, tu vas vivre tu vas découvrir la fête. Parce que Madrid, ils sont givrés. Hein. Ça n'a rien à voir avec Milan.
Tout le monde me vend du rêve sur Madrid.
Ah non, mais Madrid.
J'ai pas eu la chance de faire l'Espagne.
C'est pas une très très belle ville. C'est sympa, Madrid.
Moi, je préfère Barcelone.
Non, pour faire la fête, tu rigoles. Pff, les Catalans sont des rigolos. Non, les Castillans, c'est la vieille Castille. Madrid, ils sont barjots. Même les vieux commencent à sortir à minuit. Hein. C'est une ville de dingue, hein, Madrid.
Ouais, moi, je préfère la Catalogne. Voilà, je préfère Barcelone.
Guillaume, j'ai hâte, mais je profiterai quand même un maximum de millions.
Mais je suis sûr qu'une fois à Madrid, tu iras acheter un petit coup d'œil à Barcelone, tu verras. Et va au stade, hein, parce le Camp Nou, je peux te dire que c'est une expérience unique. Il faut faire ça une fois dans sa vie. Guillaume, on t'embrasse. Mille merci pour cette carte postale de Milan, salut et plein de bonnes choses à toi.
Il est de Marcoussi dans l'Essonne originaire.
Ah oui, c'est la ville du rugby, c'est là où il y a le grand centre de rugby.
C'est le problème de l'Italie, c'est qu'au niveau rugby, ils sont un peu...
Ils sont pas terribles. Salut Guillaume, c'est l'heure de céder la place. C'est l'heure de céder la place à Rémi Barré. Nous, on se retrouve demain, évidemment.
Je vois très bien qui c'est, Rémi Barré.
Tu vois qui c'est? Un grand type, pas mal, les yeux bleus, tu sais.
On s'est croisé.
Un peu austère. Salut Rémi.
Salut Eric. Salut Laurent. Bonjour à tous. Tiens, bah justement, on va parler de ça tout de suite. On va parler des Français et de l'amitié. Mmh. Bah oui, parce que hier soir, moi, j'ai vu ma petite qui est rentrée au collège. Ça y est, elle a repris les cours. Qui m'a dit qu'est-ce que c'est bon de revoir les copains et les copines. Mmh. Bah oui, l'amitié.
Ouais,
l'amitié.
Moi, quand j'ai retrouvé Eric après le confinement, mais je me suis dit, mais c'est pas possible. Il est le même. Il a pas changé.
Et bien l'amitié, mais tu sais, moi, ce que je place au-dessus de l'amitié,
vas-y,
les copains.
Ouais,
je trouve qu'un copain,
ça c'est pas mal.
Un copain, ça te dit pas. Un copain, ça te dit pas. Oui, j'avais pas d'argent. Tu étais mon ami. T'aurais pu me prêter de l'argent. Oui, j'ai divorcé. D'ailleurs, ça allait mal. Alors tu m'as même pas appelé.
D'ailleurs, copain, ça prête pas, ça donne.
Ouais. Après, copain, c'est comme ça. Le copain, il vient chez toi, il dort chez toi 3 jours. C'est un copain.
Mais alors, on va parler de l'amitié.
Tu l'obliges pas à faire des trucs.
Tu veux pas te taire.
Ouais.
Voilà. Si. Laisse Rémi parler.
De quoi tu vas parler, Rémi, dans ton émission?
Il y a des copains.
Envahissants.
C'est des envahissants. t'as des copains, t'as des mecs qui sont des copains, mais ils parlent.
Et j'en connais. À tout de suite.